Bonjour, je suis donc Raphaël Batz, je suis à l'ENSIB, chargée des relations internationales. Et il se trouve aussi que je fais une thèse en philosophie et sociologie sur la participation en bibliothèque. Dire rapidement, ça a un titre un peu plus arrogant, évidemment, ouais, vaniteux. Alors évidemment, c'est très dur de passer après, après Lionel, d'abord parce que moi, je vais parler avec plein de fautes de français, ma syntaxe sera déplorable, je n'aurai aucune citation classique, voire même contemporaine. Et en plus, je vais parler de démocratie participative. Vraiment, j'ai tout pour plaire.
Oh non.
Alors, juste avant de faire ma propre présentation, excusez-moi, je cherche... avant de commencer avec ma propre intervention, je voulais juste vous présenter d'abord la table ronde qui suivra. Donc, je vais faire une introduction plénière, on va dire, un peu magistrale. Et puis, suite à quoi, on va avoir trois invités. On devait avoir quatre invités, mais j'ai le regret de vous annoncer que les collègues de LEZOU, du réseau des médiathèques entre Dore et Allier, ont malheureusement été coincés hier à cause des problèmes de train, et ils n'ont donc pas pu nous rejoindre. Voilà. Donc, ils ont préparé une vidéo, mais que nous n'arrivons pas à charger. Voilà. Donc, on vous la donnera en accès, bien sûr, après la conférence, dès qu'on arrivera à la charger quelque part. Alors, quand même, sont là sur la table ronde Michel Rouget, qui est ici, qui est directeur du musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux, et Marie-Christine Jacquinet et Christelle Prieur, qui sont en bas des marches, là, et qui travaillent toutes les deux au conseil départemental des Yvelines et qui vous parleront de leur projet du Vivier. Voilà. Avant ça, parlons un peu de participation bibliothèque, de manière plus générale. Donc, vous y voyez bien, oui ? Ça va ? Moi, j'ai le soleil. C'est... la première chose à faire, et peut-être justement parce que Lionel nous a encouragé à ça, c'est de se poser la question de la légitimité, en fait, pour nous, de ces questions de participation en bibliothèque. C'est pas tant que ça une évidence. Puis, évidemment, les discours peuvent être questionnés, hein, comme l'a fait Lionel. Donc, ça mérite qu'on s'arrête un peu sur cette question de légitimité. Pourquoi, en gros, pourquoi est-ce qu'on ferait du participatif en bibliothèque ? Après tout, ça allait très bien avant. Genre. Pourquoi est-ce qu'on ferait des pratiques participatives ? La deuxième chose, c'est de se demander de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de participation. Il y a des échelles et des typologies dont je vous parlerai. Et enfin, je vous parlerai vraiment en bibliothèque là, de certains projets et ce qu'ils revêt comme enjeu, forme et enjeu encore. Je vois, oui, j'ai dû faire une erreur. Enjeu, forme et exemple, je voulais écrire. Commençons par la légitimité. Alors, peut-être vous connaissez John Dewey. Oui, ce n'est pas du tout le petit frère de Melville Dewey. Il n'a même pas... Et d'ailleurs, il n'a aucune fraternité avec Melville Dewey, qui en vérité était un sacré sale type, si vous regardez un peu son histoire. Donc, oublions tout de suite ce Melville Dewey et consacrons-nous à John Dewey, vous connaissez peut-être d'ailleurs. Ouais, je vois des oui dans la salle. C'est un philosophe américain qui fait partie de la branche des pragmatistes et vous voyez ses dates, dont les ouvrages principaux en fait datent des années 20, du début du XXe siècle. Pourquoi est-ce que ce brave homme nous intéresse, hormis le fait qu'il a l'air très sympathique ? Enfin, moi, je trouve qu'il a l'air très sympathique, mais je l'aime beaucoup, c'est vrai. Pourquoi ça nous intéresse ? Tout simplement parce que John Dewey disait qu'à son époque, c'était une catastrophe. La politique, ça allait plus du tout. Crise de la représentation, les gens croyaient plus en leurs élus. Ça vous rappelle quelque chose, peut-être ? Non ? Moi, ça me parle tous les jours. Et du coup, pour John Dewey, John, on va l'appeler John, hein. Pour John, c'était tout à fait renversable, en fait, cette situation. Ce n'était pas le cas de tous ces comparses philosophes de l'époque. Il y en a beaucoup qui disaient, oui, finalement, si les pauvres ne comprennent rien, ce n'est pas grave. Hein. Nous, on comprend, on s'entrevote entre nous, en gros. Et puis, ça va bien comme ça. Hein. Le principal, c'est qu'on mène la démocratie là où elle va bien. Voilà. Et John, qui était très sympathique, trouvait quand même que c'était un petit peu exagéré. Et surtout, c'était un homme qui croyait vraiment que l'opinion commune, c'est pas la doxa générale, mais vraiment l'opinion des gens, voilà, pouvait avoir une valeur. Et ce pourquoi ? Parce qu'au fond, pour lui, la démocratie, d'abord la démocratie, c'est vraiment axé sur une notion non pas de régime politique, si vous voulez, question de seulement de prise de décision, c'est d'abord une question de ce que nous, on appelle aujourd'hui le vivre ensemble, c'est-à-dire de lien social. C'est une manière de vivre ensemble. C'est pas seulement une manière de diriger, c'est d'abord une manière de vivre ensemble. Et en prenant les choses comme ça, au fond, il dit, ben, qui peut mieux savoir comment vivre ensemble que les gens qui vivent ensemble eux-mêmes, quoi, en gros. Et dès lors, il développe une théorie de la démocratie qui dit, la démocratie, c'est quelque chose qui s'expérimente. La démocratie, on l'essaye. En d'autres termes, il ne s'agit pas de savoir quelle est la démocratie que nous avons aujourd'hui, mais la démocratie qu'il y aura demain, et puis demain, ben, on verra celle d'après, et etc., etc. La démocratie, ça se construit, et ça se construit avec des gens dont qu'on va chercher à émanciper. On va chercher à les émanciper pour que, justement, ils puissent participer à cette construction. Pour John Dewey, du coup, le mot-clé, si vous voulez, de l'émancipation, c'était l'éducation. Il ne s'est pas trop intéressé aux bibliothèques, bon, on ne peut pas tout avoir, hein, ce brave homme. Il s'est intéressé à l'éducation. Il s'est dit, voilà, bon, si on veut que les gens soient émancipés et participent réellement à la démocratie, ce qu'il faudrait, au fond, c'est leur donner la possibilité, dès le moment de l'éducation, dès qu'ils rentrent à l'école, d'apprendre ce que c'est que de participer à quelque chose. Et donc, il a mis la participation au cœur de l'éducation comme un moyen d'expérimenter continuellement la démocratie. En gros, la participation comme quelque chose où on expérimente une certaine manière de créer des interactions les uns avec les autres et ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Et moi, quand j'entends ça, bah, ça me rappelle drôlement ce qu'on fait en bibliothèque. D'abord, l'émancipation, à défaut de loi de bibliothèque, hein, on est tous d'accord, on n'a pas de loi de bibliothèque. Hein, ouais. À défaut de loi de bibliothèque, il y a une chose sur laquelle on se met d'accord en général, c'est la notion d'émancipation. On dit, voilà, on est là pour émanciper. Certains disent le citoyen, ceux qui osent le dire, d'autres disent juste émanciper les habitants, les usagers, les publics, etc. Et il me semble que pour nous, c'est une vraie légitimité philosophique à se saisir de la participation si on pense les choses en termes d'émancipation. En d'autres termes, il ne s'agit pas de se demander, il s'agit au contraire plutôt de se demander à quoi on veut émanciper les gens, de quoi on veut les émanciper et pourquoi faire. Et si on veut émanciper les gens parce qu'on considère que les bibliothèques œuvrent pour la démocratie, c'est ce qu'on considère en France aujourd'hui, hein, c'est que les bibliothèques sont des piliers de la démocratie, et qu'on émancipe le citoyen pour qu'il puisse participer, voter, alors oui, il faut considérer que la participation, telle que l'entend John Dewey, c'est-à-dire celle qui nous invite à ce que l'institution soit un lieu où on expérimente et on questionne la démocratie ensemble, alors oui, on a une certaine injonction philosophique à faire de la participation en bibliothèque. La deuxième injonction vient de Jürgen Habermas, que vous connaissez aussi, vous qui lisez tous l'allemand couramment. Jürgen Habermas est un philosophe allemand, donc, qui vient de ce qu'on appelle la deuxième école de Francfort. La première école de Francfort était vraiment très axée sur la théorie critique, ces gens comme Adorno, Horkheimer, voilà. Donc lui, il fait partie de la deuxième génération, qui est plus tardive, et il a écrit principalement ses ouvrages dans les années 80 à aujourd'hui. Alors pourquoi lui aussi il nous donne une certaine légitimité philosophique à s'intéresser à la participation ? Vous avez peut-être entendu parler de son éthique de la discussion ou de son principe de délibération. Au fond, ce que dit Jürgen Habermas, c'est que la démocratie, ça se construit dans la discussion. Ça se construit dans la possibilité d'exprimer ses opinions, de les mettre en débat et surtout d'en faire la publicité. Alors ce qu'il appelle la publicité, c'est pas ce que nous, on appellerait la publicité à la télé, d'accord, on est bien d'accord, c'est de mettre en espace public, de mettre en public des idées. Soyons clairs, c'est un philosophe, ce qu'il appelle des idées, c'est pas le café du commerce. C'est pas, tiens, ma grand-mère pense que la démocratie, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est pas ça, c'est vraiment l'idée d'argument, en fait, et d'être capable de construire des arguments et de les mettre sur la place publique. Pour être très clair, ce que veut Jürgen Habermas, c'est que c'est pas grave s'il y a toujours un parlement, etc., qui prend des décisions. Ce qui importe, c'est que chaque point qui doit être décidé puisse être discuté ailleurs, dans des espaces publics, où tout le monde pourrait se réunir. Donc, n'allez y voir... aucun lien direct avec Nuit Debout, par exemple. Il n'a pas inventé Nuit Debout. Mais des espaces publics dans lesquels les gens pourraient discuter et qu'ensuite, il y a un espèce de jeu d'aller-retour entre des institutions et ces espaces publics. Et moi, quand j'entends ça, là encore, je me dis, mais enfin, qu'est-ce qu'il y a comme espace public en France aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a comme espace où on peut véritablement argumenter, d'abord construire une argumentation à travers des documents, échanger ces arguments, les rendre publics, les confronter, les faire évoluer, etc. Et en vérité, alors certainement je suis orientée, je ne suis pas objective, mais en vérité, je n'en vois pas d'autres que les bibliothèques. Je n'en vois pas d'autres. La gare n'en est pas une, on est bien d'accord, la gare ça se traverse, on n'est pas là pour discuter. On pourrait dire les musées, les théâtres, etc. Pour moi, je sais que j'ai des collègues qui pensent, qui prennent cette option-là. Pour moi, ce n'est pas la même chose, puisque la bibliothèque, c'est vraiment un espace dans lequel on peut rentrer gratuitement. Okay, on peut avoir une carte en la payant, mais la rentrer dans la bibliothèque, consulter les documents, ça reste quelque chose de gratuit, qui est ouvert à tous. On voit beaucoup moins de SDF dans les musées, par exemple, que dans les bibliothèques. Etc, etc. Donc pour moi, il y a aussi une légitimité philosophique à faire de la participation, puisqu'au fond, hein, ces espaces de discussion et d'échange, ce sont des espaces qu'il appelle participatifs. La troisième injonction qu'on a, elle est institutionnelle. D'abord, il faut le rappeler, les bibliothèques sont là pour mettre en œuvre les politiques publiques culturelles. C'est quand même un peu notre mission, hein, faut quand même le dire. La bibliothèque est une institution. Une institution qui donc s'inscrit dans la dynamique de la démocratie aujourd'hui. Elle doit donc prendre part à la démocratie. En tant qu'institution, on est un lieu dans lequel les gens donc, peuvent construire leur participation à la démocratie. Et d'ailleurs, on ne s'y trompe pas, hein, je veux dire, un grand nombre de mairies ont développé la participation comme un remède à la crise de la représentation. On voit fleurir un peu partout des services de démocratie locale, démocratie de proximité, démocratie participative, etc. Il y a quelques années, je crois que c'était en 2013, au congrès de l'ABF, j'étais sur des petites tables en train de traîner, je ne sais plus ce que je faisais, et à côté de moi, il y avait deux bibliothécaires qui étaient en train de discuter. Et il y en a une qui disait à l'autre, je suis désolée, j'écoutais aux portes, hein, c'est pas bien, mais... Et il y en a une qui disait à l'autre, tu sais quoi, ils ont changé notre service de démocratie participative en service de participation démocratique. Non, mais vraiment, n'importe quoi. Et moi, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe pour lutter contre la crise de représentation, on se dise, tiens, on va faire un service de démocratie participative, puis qu'après, on se dise, tiens, ça ne marche pas, on va faire un service de participation démocratique. Alors, comme le disait Lionel, hein, il y a beaucoup de discours là-dedans, il y a beaucoup de manipulations, etc. Mais néanmoins, le fait que les mairies se saisissent de cette question, on va dire, de la proximité, de la démocratie directe, est une légitimité pour nous à se saisir aussi de la participation. Alors soit, d'ailleurs, certaines mairies vont vous contacter et vous dire, bah voilà, aujourd'hui, là, ça y est, on est en pleine démocratie participative, mon brave, il s'agit que la bibliothèque s'y mette aussi. Soit c'est vous qui êtes en mesure aussi de les contacter et de travailler avec eux. Alors justement, sur cette histoire de démocratie participative et participation démocratique, en vérité, il y a un énorme enjeu dans ce glissement sémantique. On dit souvent que la démocratie participative, c'est une vision très française. Une vision où, en gros, la démocratie est première et il s'agit qu'elle soit, qu'on s'ajoute, en fait, et qu'on vienne participer à cette démocratie qui est déjà en œuvre. Elle existe, la démocratie. On le sait, on est en démocratie. Et si vous n'êtes pas content de cette démocratie, bah, c'est pareil, elle est là. Il y a une démocratie. Et il s'agit que vous veniez participer pour qu'elle s'améliore. C'est une vision très française, puisqu'au fond, elle se construit, si vous voulez, sur un processus inscrit dans le temps, avec une construction de la démocratie à laquelle on viendrait rajouter, comme ça, des avis, des consultations, etc., du public. Quand je dis public, je l'entends au sens de John Dewey, c'est-à-dire les habitants dans le grand général. Mais il y a une autre vision, plus anglo-saxonne, qui est celle de la participation démocratique. Et là, vous voyez bien que la participation devient le substantif principal. C'est-à-dire la participation, et ce pourquoi on doit travailler ensemble et on vise à ce qu'elle soit démocratique. Mais là aussi, on a un glissement de mots qui n'est pas toujours heureux. Hein. Je veux dire, le but n'est pas seulement que... Enfin, comment dire, faire de la participation démocratique ne garantit pas qu'on ait une démocratie à la fin. D'accord ? On est bien d'accord. Néanmoins, cette vision anglo-saxonne, vous l'aurez bien compris, elle est beaucoup plus axée sur l'action elle-même, c'est-à-dire la participation. En vérité, en France, la démocratie participative, ça fait 20 ans que ça existe. Ça fait 20 ans et c'était plutôt dans les projets urbanistiques. Vous vous rappelez, genre on va détruire un quartier un peu tout pourri dans une ville, et puis on va demander aux gens, alors vous en pensez quoi? Ça vous plairait d'avoir une bibliothèque? Alors les gens disent, bah, je ne sais pas, moi, oui, bien sûr, ça me plairait. Ah, ils ont tous dit oui, c'est fantastique, faisons donc une bibliothèque dans ce quartier pourri. Si ça vous intéresse de voir un peu les résultats de ce type de projets urbanistiques avec des consultations, je vous encourage vivement à aller lire « Pourquoi brûler des bibliothèques » de Denis Merklen, qui est assez... qui, à mon avis, fait bien le lien entre ce type de projets urbanistiques qui ont basé sur de la consultation et les résultats réels de l'intégration des bibliothèques dans certains quartiers. Et puis, par ailleurs, on voit aujourd'hui émerger autre chose qui est le design. Ça, Lionel va aimer. Le design des politiques publiques. Donc, vous avez entendu parler de la 27e région ? Oui, ben, je ne sais pas s'ils vont se rappeler d'ailleurs la 14e région, ou je ne sais pas. Ils gardent leur nom ? Donc la 27e région, typiquement, eux, ils bossent beaucoup là-dessus. Alors là aussi, il y a une dimension participative forte, pas seulement, puisqu'il y a une dimension aussi de construction, de prototypes, etc. Vraiment, il va me détester. Vraiment, il y a quand même cette dimension très forte de participation. Mais attention, pas participation seulement des habitants avec les experts que pourraient être les bibliothécaires, mais vraiment avec les élus... les bibliothécaires en tant qu'experts techniciens, si vous voulez, les habitants, etc., etc. Alors, c'est vraiment dommage que la collègue de Lezoux soit pas là, mais elle pourrait vous en parler mieux et vous verrez ça dans sa présentation orale. Et puis, je vous en reparlerai un peu après. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que tout ça, déjà, nous donne une certaine légitimité institutionnelle à participer, à faire de la participation, bah, parce que ça nous l'est demandé ou parce que ça s'intègre, si vous voulez, dans un processus qui est celui des institutions aujourd'hui. On a donc une légitimité philosophique, si vous voulez, on a une légitimité institutionnelle. Et puis, il se trouve qu'on a une nouvelle légitimité qui est plus malheureuse et qui est plus affective et qui pour moi, est vraiment... tout à fait contemporaine et qui est liée aux événements de 2015. En vérité, et je mène des études à côté sur les actions menées par les bibliothèques après les événements de janvier 2015, cet événement a beaucoup marqué les bibliothèques. Alors, je serais ravie d'en parler avec certains d'entre vous, si ça vous dit, après. Sur les plans, justement, donc on parlait beaucoup du vivre ensemble, etc., etc., de la confiance, de la neutralité, du pluralisme. Beaucoup de bibliothèques se sont dit « Ah tiens, ah non, quand même, Charlie Hebdo, on ne peut pas toucher à Charlie Hebdo. Tiens, où sont nos Charlie Hebdo ?» Ah bah oui, c'est vrai que ça fait 10 ans qu'on l'a arrêté, parce que non, c'est un peu conflictuel. Donc ça a posé un certain nombre de problèmes pour des bibliothèques qui se sont rendues compte qu'effectivement le pluralisme et leur neutralité en avaient pris quand même un certain coup ces 10, 15, 20 dernières années et qu'il il s'agissait de réinterroger dans quelle manière la bibliothèque était vraiment le reflet du territoire. C'est un mot, vous rappelez, reflet du territoire qu'on utilisait drôlement. Là. Il y a les 5 dernières années, on l'utilise moins là. Parce qu'on parle de participation maintenant, mais on parlait beaucoup de reflet du territoire. Et au fond, 2015 a vraiment questionné ça, a vraiment questionné chez les bibliothécaires, en tout cas que moi j'ai suivi pour l'après-Charlie, cette question. Et j'ai vu émerger, mais de manière très forte, un grand nombre de projets participatifs comme en réponse, justement, à des questionnements sur le vivre ensemble. Voilà. Je n'irai pas jusqu'à dire que le livre se vend très bien depuis, mais de fait est qu'il y a énormément de conférences qui s'organisent sur la participation, celle-ci parmi tant d'autres, et à mon avis, ce n'est pas pour rien que ça arrive cette année. Ce n'est pas lié à la sortie du bouquin, je n'ai pas du tout cette prétention. C'est bien lié en fait, au fait que 2015 a été une année particulièrement questionnante en fait, sur des questions politiques pour les institutions. Alors, qu'est-ce que c'est la participation ? Hop, on va voir si je peux aller sur Internet... Donc, je vous montre juste, c'est une infographie, c'est vite dit, mais une petite infographie que j'ai fait avec des échelles de la participation. Je ne vais pas toutes les passer en revue, mais il y en a plusieurs, donc vous pourrez avoir accès évidemment à tout ça, avec une bibliographie à la fin, etc. etc. Je voudrais juste vous montrer la première, qui est la plus importante en vérité, puisque c'est à partir de celle-ci que se basent toutes les échelles de mesure de la participation. Alors oui, en effet, on considère que la participation, ça peut se mesurer. La première échelle, en fait, a été pensée par Sherry Einstein en 69. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Sherry Einstein a inventé cette échelle de la participation. Si vous regardez bien, les deux premiers barreaux de l'échelle sont de la non-participation. C'est très important. Voilà. Effectivement, il y a certains projets de participation qui sont très simplement de la manipulation, c'est-à-dire qui visent à dire... Ça vous plairait hein, d'avoir une bibliothèque, c'est ce que je disais. Ah bah oui, ah bah donc on va faire une bibliothèque. Voilà. Bon. Il y a des projets de thérapie, c'est vous savez quand on dit aux gens ah ça allait pas en ce moment, hein, ce qu'il vous faudrait c'est je sais pas moi un supermarché. Là vous vous sentiriez mieux, il y aurait moins de conflits dans l'espace public, les jeunes se drogueraient moins, etc. Bah, évidemment, tout le monde est très content, donc tout le monde est d'accord. Mais ça ne nous intéresse pas parce qu'au fond, c'est de la non-participation. Et comme les bibliothécaires sont des gens très gentils, ça s'est vu dans le monde entier, aucun bibliothécaire ne cherche à faire ce type de participation. En revanche, des choses qu'on fait depuis très longtemps, c'est de l'information. Les bibliothécaires donnent de l'information. Ils informent aussi sur la société en général. Ils informent sur leurs services. Ils essayent d'être transparents. Tout le monde ne met pas ses rapports d'activité en ligne, mais il y en a de plus en plus qui le font, etc., etc. L'information est le premier niveau de la participation. Le deuxième, c'est la consultation. C'est-à-dire, proposer aux gens de choisir entre diverses propositions. Ou faire par exemple, j'ai déjà vu ça, faire des grands chapiteaux par exemple, où on va demander aux gens de dessiner la bibliothèque de demain, leur bibliothèque de demain. Et donc les gens planchent comme ça, font des petits ateliers où ils dessinent, ils écrivent, ils découpent, etc., etc., pour un peu en faire sortir les idées des gens. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire, hein, c'est une consultation. Ça veut dire qu'en gros, on prend le pouls un peu des besoins des gens, en tout cas des besoins énoncés. La réassurance, au fond, c'est le compromis, c'est-à-dire on va faire un compromis avec les gens, on sait qu'ils ont besoin de ça, nous on pense que la ville a besoin de ça, et on fait une sorte de compromis pour arriver à quelque chose d'intermédiaire. Par exemple, on fait une bibliothèque centre social, vous savez ça, les bibliothèques centre social, c'est un peu la mode. On fait une bibliothèque centre social, et normalement un centre social, c'est dirigé par les habitants, on est d'accord. Mais bon, quand même, une bibliothèque centre social dirigée par les habitants, une bibliothèque, en général, ce n'est pas dirigé par les habitants, on est bien d'accord, hein, c'est dirigé par les bibliothécaires et les élus, etc. Donc, on va faire un compromis, on va faire une bibliothèque centre social dirigée par des bibliothécaires. Voilà, ce genre de choses. Tout dépend qui gagne le compromis, en gros. Et puis, on va arriver au dernier niveau, qui est le pouvoir effectif des citoyens, avec le partenariat. Ça, les bibliothèques ont vraiment beaucoup l'habitude de faire du partenariat, ce qui veut dire qu'on fait de la participation, en vérité, depuis très longtemps en bibliothèque. Mais un partenariat dans lequel, évidemment, chacun prend la mesure de son rôle, en fait, dans le projet, et a un rôle décisionnaire important. La délégation de pouvoir, c'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait dire, pour ces acquisitions-là, on délègue notre pouvoir à des habitants qui vont faire des acquisitions à notre place. On reviendra sur le « à notre place », bien sûr. Et le contrôle citoyen, alors là, c'est vraiment l'apothéose de la participation, c'est « il dirige ». Les citoyens. Ils dirigent la bibliothèque. Ce qu'on appelle le pouvoir effectif des citoyens. Alors ça, attention, hein, ce n'est pas une... Il faut que je retrouve ma... Voilà. Ce n'est pas une échelle de participation morale. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, le contrôle citoyen, que l'information. Ce n'est pas un mieux en soi. Ce n'est pas un jugement... c'est pas un jugement conscient, hein, voilà. C'est simplement qu'il y a des échelles et qu'il importe de savoir où on veut se mettre dans l'échelle. À la fois que vous sachiez où vous voulez vous mettre, que vos élus aient conscience de ça, mais aussi les gens qui vont participer. D'accord ? Sinon, effectivement, on retombe en bas de l'échelle dans la manipulation. L'échelle de la participation, elle doit servir à ça, à se positionner, à savoir où on veut se mettre. Elle ne sert pas à dire « nous, quand même, on est à l'échelon 8 hein. ». On est fort, quoi. C'est pas ça du tout. À situation particulière, échelle particulière. Dans certaines villes, une échelle 8, peut-être que ça fonctionne. Ou peut-être avec, un nombre de gens bien particuliers, ça va fonctionner. Dans d'autres situations, si déjà on arrive à l'échelle 3, on est déjà super content. D'accord ? Donc, il s'agit pas de se dire, attention, franchement, vous êtes naze, vous êtes qu'à l'échelle 4, quoi. C'est pas du tout ça, l'idée. Alors par ailleurs, on peut voir les choses de manière un peu plus technique, en faisant une typologie. Alors là, je m'appuie sur le bouquin de Baqueret et Saint-Omer, qui sont des sociologues et qui sont des spécialistes de la démocratie, soit la participation, et qui ont fait une sorte de typologie de ce que peut être la participation, là aussi, pour pouvoir se situer, se dire, moi, le type de participation que je souhaite mettre en place, il prend cette forme, cette forme, cette forme. Alors, on trouve quoi ? On trouve des choses comme l'intensité. En gros, est-ce qu'on participe la participation, par exemple, si vous avez un comité d'usagers, est-ce que ce comité d'usagers, il se réunit, toutes les semaines ? Il se réunit une fois par mois, il se réunit une fois par an. On est bien d'accord que ça ne crée pas du tout le même type de participation. Quel type de dispositif ? Vous faites un référendum, hein ? Vous avez un comité d'usagers ? Chose différente. Les secteurs sociaux, c'est ouvert à tout le monde ou au contraire, on va aller travailler avec des associations, etc. La dynamique de mobilisation, c'est un habitant qui est venu vous voir en disant « ce serait génial si on faisait des acquisitions ensemble de BD. Voilà. » Vous savez, sur le cahier de suggestions. Ou est-ce que c'est vous qui vous êtes dit « ce serait génial si on trouvait des habitants pour faire avec nous les acquisitions de BD ». Ce n'est pas la même dynamique. Le type de partenariat. Alors, le type de partenariat, c'est est-ce que vous considérez que ces gens vont être des, comment dire, des volontaires, des invités, des associés, des partenaires, etc., etc. L'échelle géographique. On fait ça sur un quartier, on fait ça sur la ville entière. Et la temporalité, c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps ou est-ce que c'est un événement, c'est-à-dire on le fait une fois et puis bah voilà, c'est déjà bien quoi. Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pérennise, c'est-à-dire on pourrait considérer qu'on fait des acquisitions participatives pour la BD une fois à l'occasion, je sais pas moi, d'un événement, par exemple, un festival. Ou est-ce qu'on dit bah voilà, c'est inscrit dans le temps, c'est-à-dire que maintenant et désormais, tout le temps, les acquisitions de BD seront faites avec des habitants. Voilà pour la participation. Ah non, c'était limite, mon enjeu forme et limite, bien sûr, c'était pas exemple. Voilà en gros le comment. Alors, pour parler des enjeux, je me suis appuyée sur une discussion que j'ai eue il y a pas très longtemps, hein, c'était il y a 2 mois, avec un chargé de démocratie locale à Strasbourg. Donc il y a un service de démocratie locale très actif, très dynamique, avec plein de projets intéressants. Je vous encourage vivement à aller voir ce qu'ils font. Ils ne travaillent pas particulièrement avec la bibliothèque, hein, c'est vraiment le service de la ville. Et en discutant avec lui, il m'a dit, ben voilà, nous on a quatre grands axes de travail. En vérité, il y en a un cinquième qui est transversal, c'est développer une citoyenneté active. Voilà, donc je ne l'ai pas mis. C'est pas juste à cause de Lionel, c'est vraiment plus parce que j'estime que c'est transversal et puis aussi, quelque part, il faut questionner aussi cette approche. Mais je me suis dit qu'il était intéressant de repartir des enjeux que eux se donnent dans ce type de service pour voir ce que ça peut vouloir dire à notre échelle, échelle d'un service de politique culturelle. Alors, ce que je dis là, ça ne vaut pas que pour les bibliothèques municipales ou bibliothèques départementales, en vérité. Hein, vous l'adaptez à votre situation, si vous êtes en bibliothèque universitaire, etc. En gros, c'est une politique de site. Voilà, simplement l'adapter à son territoire. Pour lui, donc, il y avait 4 grands enjeux. D'abord, diversifier les publics. C'est ça, un des grands enjeux de la participation. C'est une question qu'on se pose tout le temps. Enfin, genre, quelle bibliothèque municipale, par exemple, ne s'est pas posée question sur que sont devenus les trentenaires ou où sont passés les ados, etc., etc. Diversifier les sujets, valoriser la parole et l'apport des habitants, et enfin, développer la culture de la participation chez les agents. Alors, diversifier les publics, les enjeux, pour moi, donc je me réapproprie un peu ces grands enjeux posés par ce collègue de Strasbourg. Pour moi, les grands enjeux de diversifier les publics, ils sont évidemment la question de la légitimation par rapport à l'espace public. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à l'espace public. Il s'agit que chacun puisse venir discuter, argumenter, etc. Et au fond, trouver sa place et trouver sa légitimité à s'exprimer. Vous savez, comme moi, que parfois, dans certaines situations, on ne se sent pas en légitime à prendre la parole, à exprimer son regard, et notamment dans une démocratie comme la nôtre, qui est une démocratie d'experts. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais pas vous, mais moi je comprends rien à l'économie, hein. Mais rien du tout. D'abord, j'ai pas fait des études de mathématiques, c'est extrêmement complexe, c'est des questions de flux, je ne comprends strictement rien à l'économie. Voilà, il y a des experts. Aujourd'hui, on fonctionne avec des démocraties d'experts. Alors, sur certaines choses, on comprend bien qu'il y a des experts, sur d'autres, moins. Hein, mais le fait est qu'aujourd'hui, on a des démocraties d'experts. Aujourd'hui, donc, comment est-ce qu'on peut se sentir légitime face à cette expertise? C'est-à-dire pour savoir quoi voter, ne serait-ce que commencer par là, mais aussi à quoi prendre part, en général, dans les associations, etc., dans celles qui veulent impulser, on va dire, de nouvelles dynamiques sur les territoires. Si la bibliothèque fait de la participation, il importe donc qu'elle se pose la question, justement, de diversifier les publics pour questionner cette question de la légitimation. Faire en sorte que ce ne soit pas toujours les mêmes, en gros, qui aient la parole. Ça veut dire aussi une certaine reconnaissance. La reconnaissance des publics, la reconnaissance à la fois de leur savoir, qui vont être variés, on le verra après, mais aussi de leur capacité à rentrer en action. C'est ça aussi la démocratie, d'accord ? C'est pas seulement considérer que la démocratie se joue au moment du vote, mais qu'elle se joue peut-être tout au long des années, et pas seulement tous les 5 ans, par exemple. Et donc, reconnaître, finalement, le rôle des individus dans notre société. Pour nous, c'est dans les politiques culturelles, on est bien d'accord, hein ? Voilà, on va pas aller se mêler de ce sur quoi on n'a peut-être pas prise. Diversifier les publics, c'est aussi redonner du, on va dire, une certaine forme de pouvoir à ce que veut dire le territoire. Quand on est dans une bibliothèque municipale, on ne sert pas que le public qui vient et qui utilise la bibliothèque. On le sait. On a toujours l'espoir qu'il y a les autres, qu'on ne touche pas, les fameux non-publics. Ce qui m'a toujours fait marrer avec le non-public, c'est que vraiment, c'est une vision complètement bibliocentrée. Je veux dire, avant d'être des publics, ce sont des habitants. Hein. Donc ce ne sont pas des non-publics, ce sont des habitants qui ne viennent pas à la bibliothèque, ce qui est complètement différent. Il se trouve que pour nous, c'est des non-publics. Ben justement, arrêtons de parler de non-publics et considérons que, au fond, la bibliothèque, ce qu'elle vise, c'est à toucher les habitants. Alors, il y en a qui sont publics, tant mieux, et il y en a qui ne le sont pas. Bon, ben, allons voir pourquoi. Déjà, changeons de paradigme. Et ça, ça a un impact aussi sur la notion de communauté. C'est-à-dire que une question qui m'a marquée dans le bouquin de Denis Merklène, par exemple, c'était est-ce que les bibliothécaires habitent dans le quartier où ils travaillent ? Est-ce que vous faites communauté, fraternité, j'ai envie de dire ? Est-ce que vous faites communauté avec votre territoire ? Là, je vois à la bibliothèque municipale de Lyon, un grand nombre de bibliothécaires habitent dans des patelins autour. Bon, c'est normal, hein, je comprends, moi aussi, je préfère avoir une maison à la campagne qu'habiter en plein centre-ville de Lyon. Quoique ce n'est pas vrai, mais admettons, pourquoi pas ? Mais ça pose quand même question d'à quelle communauté on appartient, à laquelle on sert. Et si le bibliothécaire ne fait pas partie du territoire, ne fait pas partie de la communauté, alors il importe bien que les gens qui en font partie soient là, dans le projet. Et enfin, il s'agit de démocratie, et donc aussi de démocratisation. Mais pas de démocratisation, pour moi, de la culture. C'est pas l'enjeu. C'est la démocratisation de l'action politique elle-même. C'est-à-dire de la manière dont on participe à ce qu'est la démocratie. C'est-à-dire à construire les politiques culturelles, etc. Pourquoi je dis ça ? Si on dit démocratisation de la culture, on va dire, bah, par exemple, je vais acheter des très belles BD, etc., etc. Des BD sur lesquelles, vous voyez, je ne suis pas du tout d'accord avec Lionel, par exemple. On peut ne pas être d'accord hein, sur cette même journée. Eh bien oui, peut-être il y a des gens, ils vont vouloir qu'on achète des BD que moi, je trouve toutes nulles. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il faut démocratiser la culture, c'est-à-dire leur dire, non. Non, mais c'est normal. C'est normal, tu ne sais pas. Mais regarde bien. Ça, par contre, c'est bon. C'est de la bonne littérature, c'est de la bonne BD, c'est du bon graphisme, etc. Ou est-ce que ce qui importe, c'est que les gens participent à un projet dans lequel ils vont comprendre comment fonctionne la bibliothèque ? C'est pas comment fonctionne la bibliothèque pour devenir bibliothécaire, ça on s'en fout, ça n'intéresse que nous, soyons bien d'accord. C'est comment fonctionne finalement une institution qui a pour but de mettre en œuvre des politiques culturelles. Parce que c'est ça aussi, comprendre le monde. Si on dit que la bibliothèque, elle veut émanciper les gens, c'est aussi en comprenant comment fonctionnent les institutions. Pas seulement en trouvant les bons livres à lire qui vont nous aider à bien voter. Ça, c'est une vision de l'émancipation qui est très bourdieusienne. C'est-à-dire, attention, je vais vous montrer où vous êtes dominé. Après, vous saurez, puis vous ne ferez plus les mêmes erreurs. Là, on peut penser une autre forme d'émancipation. Une émancipation qui dit, viens expérimenter, viens prendre part, regarde comment se passe la démocratie, à quoi ça ressemble, comment ça marche. On est dans une émancipation plus dewienne, je ne sais pas comment on dirait ça. Alors, diversifier les publics, ça veut dire faire attention à plein de choses. Ça veut dire se demander d'abord, c'est quoi les publics ? Question de tout à l'heure. C'est quoi les habitants ? C'est quoi les citoyens ? Est-ce qu'il y a des catégories ? Des catégories par quoi ? Par profil ? Par âge, etc., etc. Là, à la BM de Lyon, ils font un gros projet démocratie et ils se demandaient est-ce que c'est vraiment pertinent de faire des actions qui sont visées par public, genre pour les enfants, pour les vieux, en gros, quoi. Et est-ce que ce serait pas intéressant de faire des animations où, ben, justement, on dit t'as 8 ans, ben, tu viens. C'est comme les jeux, vous savez, entre 8 ans et entre 7 ans et 77 ans. Ben, c'est exactement la même chose. Ben, viens comme tu es, quoi. C'est McDo, quoi. La diversité ethnique, je sais c'est un gros mot, faut pas dire ça, mais enfin les mots sont là, il faut le dire quand même parfois. ORIS, hein, qui est une médiathèque, archives, etc. à Villeurbanne, donc à Lyon. J'ai une de mes élèves qui a fait un travail avec des cartes pour une sorte de jeu de cartes pour aller interviewer les gens qui venaient ORIS et leur demander ce qu'ils voudraient faire à la bibliothèque. un petit projet de consultation comme ça, un peu participative. Et il y avait des ados qui avaient écrit « embaucher des Noirs ». Voilà. Bon, ben, ils savaient pas trop quoi faire derrière, mais comme vous savez comme moi qu'on n'a pas le droit de, évidemment, dire « je cherche un Noir à la bibliothèque », ben, n'empêche que la question, elle est là, la diversité ethnique. Pour exemple aussi, la bibliothèque du Queens, hein, aux États-Unis, donc à New York, c'est le territoire sur lequel il y a la plus grande densité de gens qui viennent de nationalités différentes. Donc de cultures différentes, de langues différentes, etc., etc. Et ils font un énorme travail démographique, c'est-à-dire qu'ils regardent. Ils disent « Ah tiens, ce quartier, c'était un quartier hispano, et là, maintenant, c'est devenu un quartier chinois. » Puis en plus, ils déconnent pas, quand c'est quartier chinois, c'est vraiment quartier chinois. Donc c'est vraiment un quartier chinois, donc ils se disent bah, « on va changer les collections. » C'est-à-dire qu'ils font bouger les collections au fur et à mesure que les quartiers changent. C'est pas aux gens d'aller traverser le Queens, qui est immense par ailleurs, pour aller chercher les bouquins en chinois. Tout ça parce qu'il y a 50 ans, il y avait des Chinois de l'autre côté du Queens. La diversité, elle est aussi culturelle, elle est aussi financière, évidemment. La diversité des publics, c'est aussi les lieux. Où est-ce qu'on voit, où est-ce qu'on fait la participation? On le fait dans la bibliothèque, on le fait hors de la bibliothèque. On le fait chez nos partenaires, où est-ce qu'il faut que nos partenaires viennent? La diversité, c'est les modes d'action aussi. Tous les publics ne sont pas à l'aise avec le fait, par exemple, d'acquérir des bouquins. Tous les publics ne sont pas à l'aise avec le fait de dessiner la bibliothèque de demain. Donc il faut peut-être penser aussi des diversités d'action, des diversités de savoir, des diversités d'engagement. Il y a des tas de gens qui s'en tamponnent le coccyx, franchement, de la démocratie. Ils la vivent, point. Il ne faut pas essayer à tout prix d'avoir 100% des habitations. Il faut se demander comment est-ce qu'on peut toucher les gens dans leur mode de fonctionnement divers et dans leur rapport divers aussi à la démocratie. Et surtout, il faut diversifier les discours. Alors des exemples, j'en ai plein. Vite fait Biblioremix, bien sûr. Donc Lionel nous a démonté le truc. Pourquoi Biblioremix? Bah, tout simplement parce que eux, quand ils réunissent leur... donc vous savez, c'est un nombre restreint de gens qui participent à chaque fois. Ils se rapprochent. Non. en fait, ils réunissent un groupe de gens en disant, par exemple, on va avoir 45 personnes. Il y aura 15 personnes, ce sont des bibliothécaires. On ne peut pas les empêcher de rentrer. De toute façon, ils sont fans. On a 15%, ce sont des designers. Des gens comme ça, des gens qui font du graphisme, etc., etc. Et le dernier tiers, ce sont des gens, des habitants, des gens qui ont envie d'être là. Ben voilà, ils veulent venir, ils veulent participer, très bien. Ils sont comptables, on s'en fout. Voilà. Ils sont, je sais pas moi, marchands des quatre saisons, on s'en fout, on s'en fiche. Ils viennent parce qu'ils ont envie d'être là. Un tiers. L'ABM de Bruges. C'est en Bretagne, de Bru, pardon, je crois, on dit. Ce qui est intéressant par rapport à la diversité c'est, des publics, c'est que les élus font partie du comité d'usagers. Alors, pas tous les élus, hein, c'est pas les 30 élus, évidemment, mais il y a toujours des élus dans le truc. Et c'est vrai, et j'en reparlais avec le collègue de Strasbourg, on a parfois tendance à oublier que les élus sont des habitants comme les autres. Ils peuvent bien prendre part, évidemment, à nos projets participatifs. À monter le son, le projet Monter le son de la BML de Lyon, donc, on a des non-publics qui font partie des acquéreurs de musique. C'est-à-dire qu'au début, ils ont lancé un truc, genre, si vous aimez la musique, venez, on va construire une discothèque. Attention, c'est la discothèque et on achète des disques, hein, ok, on va pas faire un truc où on guinche. Et là, arrive une vingtaine de personnes, et dans cette vingtaine de personnes, eh ben, y a des tas de gens qui ne sont pas du tout des usagers de la bibliothèque. Et qui, en fait, en ont entendu parler parce qu'ils sont fans de musique, point, quoi. Bon, je passe le reste rapidement parce qu'en fait, le temps file, mais sachez qu'il y a tout un tas, les cartes dont je vous parlais, il y a tout un tas de projets. Vous avez aussi des projets qu'on appelle le crowdsourcing, c'est-à-dire qui s'appuient sur la foule, comme dit son nom, et où en gros, on l'ouvre à tout le monde. Donc je vous parle juste de ce projet-là parce que j'en suis super fan, ça s'appelle Building Inspector, c'est à New York qu'ils ont fait ça. Et là, c'est ouvert à tout le monde, donc si vous voulez participer, n'hésitez pas, c'est ouvert dans le monde entier, il suffit d'avoir une connexion Internet. Et en gros, ils ont scanné, ils ont numérisé leur fichier cadastre. Et bon, comme tous les trucs de numériser, bah, parfois, c'est pas très propre. Genre, il y a un mec qui a fait tomber son café au XVIIIe siècle. Bon, bah voilà, du coup, hop, il y a une tache. On sait pas si ça veut dire que c'était un bâtiment coloré ou pas coloré, etc. Le truc a été plié. On sait pas si c'est un nouveau bâtiment ou si c'est la marque de la pliure, etc. Chose que l'ordinateur, lui, ne sait pas reconnaître, mais que vous, oui. Donc, on a besoin de vous. Et donc, ça, c'est ouvert à tout le monde. Bref, je passe vite. Ce qui importe, en fait, c'est de se demander quelles sont les difficultés à tout ça. Le premier problème, c'est évidemment qu'on a beaucoup de mal à dépasser les usagers habituels. On a un public de fans, Ouais, ouais, les fans des bibliothèques. On a ceux qui sont aisés avec la parole, à prendre part, etc. Alors pour ça, je préconise une chose simple, qui est sortons de la bibliothèque. Il faut tester le porte-à-porte, et je rigole pas. C'est ce qu'on fait dans les dynamiques vraiment de démocratie participative. Il faut aller chercher les habitants, il faut plus perdre ses publics. Il faut aller parler aux habitants. Tiens, en fait, on fait ça. Voilà. Il faut aussi penser à des partenariats de type bibliothécaire embarqué ou intégré, comme vous préférez. En gros, il ne s'agit pas de demander à ce que les gens rentrent dans notre réseau. Il s'agit d'aller dans leur réseau. Alors, je prends toujours le même exemple, mais imaginons qu'il y a une association de cirque dans votre ville et qu'ils ont prévu de faire en spectacle de fin d'année un truc sur la savane. Pourquoi il n'y a pas un bibliothécaire dans le coup qui va aller leur sortir des bouquins sur la savane, sur les lions, les girafes, les je ne sais pas quoi, ce qui vit dans la savane, qui va les accompagner aussi à documenter le projet, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'on attendrait que ces gars se pointent à la bibliothèque pour dire « Est-ce que vous auriez des livres sur la savane ?» Il y a des grandes chances que sinon ils aillent sur Google et qu'ils tapent lion, quoi. Voilà. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on voudrait, c'est justement montrer peut-être des très belles illustrations sur la savane, j'en sais rien, des très beaux livres, des trucs qui questionnent la savane, etc. etc. Et donc, il s'agit non pas de faire une bibliothèque participative, mais bien une bibliothèque participante qui va participer au territoire. Le deuxième point, c'est si tu ne veux pas de réponse, ne pose pas de questions. C'est est-ce que quelqu'un m'a répondu dans un entretien ? Pourquoi ? C'est à la question que je disais, c'est OK, on veut faire des acquisitions participatives, admettons, d'essais. Il n'est pas impossible qu'un jour, quelqu'un propose un bouquin, je sais pas, avec des idées d'extrême droite. Qu'est-ce qu'on fait ? Non mais c'est vrai, c'est vraiment une crainte absolue des bibliothécaires que je rencontre par rapport à la participation. Non mais ils vont nous pourrir en gros notre fond, quoi. Alors, non mais c'est vrai, mentez pas, je sais que la moitié d'entre vous sont en train de se dire, ah ben là, hors de question, quoi. Alors, d'abord, il est vrai qu'il faut se poser la question de la limite de notre neutralité, la limite du pluralisme. Il faut l'assumer réellement. Soit il n'y a pas de limite au pluralisme, enfin, des limites dans le respect des lois, évidemment, hein, on est d'accord, ce qui est les appels à la violence, etc., etc. Mais soit on a des limites à notre pluralisme et on l'assume et on l'affiche, soit on n'en a pas et on l'assume aussi. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir peur des conflits. Parce que c'est sûr que si vous achetez ce bouquin-là, il y a Madame Machin qui va venir en disant « Non mais c'est un scandale, blablabla ». Oui, bah oui, mais à nous d'avoir un discours qui convient avec, quoi. Et puis, vous pouvez aussi répondre comme ce collègue. Si tu ne veux pas de réponse, ne pose pas de questions. On descend d'une ou deux échelles là, dans la participation, mais c'est un vrai truc. Si vous ne voulez pas de réponse, ne posez pas la question. Le problème aussi, c'est la déception des participants. Si vous dites à tout le monde « Venez, on va construire la bibliothèque de demain », ils vous font des propositions et vous faites autre chose, évidemment, ils ne vont pas être très contents. Non, c'est là où il faut savoir poser les cadres, justement, des échelles et de la typologie. Ne pas dire aux gens, ensemble, on va faire la bibliothèque, mais être honnête et dire, ensemble, on va réfléchir à la bibliothèque, puis nous, on va la faire derrière, quoi. Si vous avez des limites à votre participation, c'est-à-dire si vous n'allez pas en haut de l'échelle, juste dites-le, quoi. C'est rien du tout, les gens ne vous en voudront pas du tout, mais il faut le dire. Et enfin, le gros problème des publics, c'est bien de vouloir faire venir plein d'habitants, mais quand est-ce qu'ils sont libres, ces braves gens ? Comme vous. Le soir. Manque de bol, la bibliothèque, soit elle n'est pas ouverte le soir, soit c'est vous qui ne travaillez pas le soir. Donc il faut avoir une réflexion très claire sur le temps de travail et le temps de participation. Est-ce que c'est du bénévolat ? Est-ce que c'est des heures qui se rattrapent, etc., etc. C'est un problème qui est quasi insoluble. Bref, je ne sais plus où j'en suis, mais je veux bien qu'on me fasse des... Quand j'en suis à une heure, en gros. Ouais, ok. Donc je ne vais pas tarder à m'arrêter. Le deuxième point, c'était diversifier les sujets. Là encore, les enjeux, ils sont ceux auxquels on s'attend. Il s'agit donc évidemment d'ouvrir les politiques culturelles à tous, de compléter nos expertises, oui, et peut-être du coup même de rompre avec la logique de l'expertise, d'accroître le pouvoir d'agir des citoyens et de repenser les choses collectivement plutôt qu'individuellement. Alors, plus intéressant, parce qu'on n'a pas le temps de parler des enjeux, une certaine typologie. Quand on parle de sujet, de diversifier les sujets, au fond, ce dont on parle, c'est de savoir. Et par savoir, on n'entend pas seulement les questions de savoir liées à des savoirs académiques, par exemple, savoirs classiques, etc. Quand on parle de diversifier les sujets en participation, on parle d'étendre les savoirs. Alors, par exemple, au savoir manuel, ça, c'est le grand triptyque tricot, robot, cuisine. Ça, c'est vraiment le triptyque qu'on trouve partout. Les savoirs manuels, tu sais jardiner, viens jardiner à la bibliothèque, je vais t'ouvrir mon jardin, etc., etc. Les savoirs appliqués, ce que j'appelle les savoirs appliqués, c'est la connaissance de justement comment on jardine, que sont les graines, etc., etc., quels sont les outils. Alors, ça va jusqu'à du grand n'importe quoi, n'ayons pas peur de le dire, à comment est-ce qu'on découpe un porc dans une bibliothèque, enfin, Comment est-ce qu'on découpe un porc ? Voilà, vous êtes peut-être tous demandé comment on découpe un porc. Il y a des bibliothèques qui le font. Pas en France, évidemment. Peut-être en Bretagne, comment on découpe le porc ? Voilà. Les savoirs mobilisés, c'est ce qu'on appelle le savoir que vous avez en tant qu'habitant. Par exemple, vous connaissez bien votre ville, vous connaissez bien votre quartier, vous connaissez bien les habitants, vous savez, connaissez peut-être aussi l'histoire. Pas l'histoire qu'on trouve dans les études académiques, mais l'histoire dont on parle entre nous, dans un quartier, etc. Les savoirs professionnels, par exemple, je suis comptable et je peux être utile sur un... Vous allez dire que j'ai une obsession avec les comptables, mais je trouve ça un exemple qui marche très bien. Ça peut être utile dans un projet d'acquisition, après tout, un comptable. Non, c'est quand même des chiffres hein, derrière. On dépense de l'argent. D'avoir sur un budget un de nos acquéreurs volontaires participants qui serait comptable, c'est pas complètement idiot. À la bibliothèque de Bru, par exemple, il y avait une des participantes, c'est une... graphiste hein, dans sa vraie vie, elle est graphiste, elle leur a refait la signalétique, magnifique. Les savoirs, ce que j'appelle maternels, genre la langue, la culture, etc. Vous parlez peut-être une deuxième langue, ben, dans la ville aussi, il y a des tas de gens qui parlent une première langue, je dirais même, qui peut être vraiment très utile. Ils connaissent une certaine culture. Par exemple, en Scandinavie, je sais que en Suède, tout particulièrement, ils s'adressent à des associations de migrants pour faire les acquisitions dans la langue des pays dont viennent les gens. Ben, c'est vrai, après tout, ça a du sens, non ? Ils connaissent bien la littérature de leur pays. Ils savent, alors peut-être que nous, on ne voit passer parce qu'on ne connaît que les grands trucs mainstream, mais peut-être qu'eux, ils connaissent une littérature plus pointue, plus, etc., à laquelle nous, on n'a pas accès parce qu'on n'est pas des spécialistes. Il faut savoir un truc, c'est qu'on est peut-être le seul pays au monde où nous ne sommes pas spécialistes de nos fonds quand nous sommes acquéreurs. On le devient petit à petit, mais vous savez comme moi qu'en France, on peut être acquéreur de philo un jour, acquéreur de médecine le lendemain. Ce n'est pas un problème parce que notre expertise en France, on la tire du fait d'être en bibliothèque. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Dans d'autres pays, si vous avez fait des études de philo, vous êtes acquéreur de philo. D'accord ? En France, nous, où on a justement cette chose qui tourne, cette capacité, je dirais, à pouvoir s'adapter à toute discipline, c'est peut-être d'autant plus important de trouver des gens pour venir nous donner justement leur expertise. Et enfin, ce que j'appelle les savoirs intimes, donc genre, je suis comptable, je sais ce que c'est au quotidien d'être comptable, du type les bibliothèques vivantes. Et les exemples plus généraux qu'on trouve, c'est « je suis flic », voilà, « je suis rabbin », « je suis une femme voilée », etc., etc. Mais cela dit, ce n'est pas idiot. Enfin, la bibliothèque vivante en général, ce n'est pas idiot, mais ce n'est pas idiot de s'appuyer sur les savoirs intimes, notamment des savoirs intimes du type « je suis homosexuel ». Pourquoi ? Parce que dans certaines communautés, on va avoir aussi une certaine connaissance de documentation, d'ouvrages, etc., etc., sur lesquels on peut s'appuyer. Nous aussi, on peut s'appuyer là-dessus. Pareil sur « je suis rabbin », etc., etc. Pensez aussi à autre chose. Quand on veut diversifier les sujets, il faut aussi diversifier les outils. Le numérique, pas le numérique, les bibliobox, pas les bibliobox, où est-ce qu'on accède aux outils, est-ce que c'est une bibliothèque mobile, etc., etc. Et puis aussi, la question de la création, les porteurs de créativité, comme disait Biblioremix. Bref, on a tout un tas de bibliothèques qui ont expertisé ça, qui ont fait des... je vais vous en montrer quelques-unes, qui ont, par exemple, conservé leur expertise de bibliothécaire avec « Chercher la femme » à la BM de Lyon, avec l'idée que le bibliothécaire reste l'expert de la démarche qui est mise en place, par exemple, en l'occurrence, des communs et de la culture numérique, mais les participants viennent apporter, en gros, sont les petites mains qui vont permettre d'aller plus loin dans le projet. Et c'est très important, les petites mains. L'expertise conservée, c'en a un autre. L'expertise transmise, là, par exemple, ce sont les acquéreurs de Rieux-la-Pape, je ne suis pas sûre que ça s'écrit avec deux L, Rieux-la-Pape, qui ont dit, ben voilà, nous, on va vous apprendre à faire des acquisitions en BD, et on va vous apprendre, c'est-à-dire qu'on va vraiment vous apprendre comment nous, on fonctionne. C'est-à-dire, c'est quoi un budget dans une municipalité ? C'est quoi un budget dans une institution culturelle ? Comment ça marche ? Où est-ce qu'on achète les choses, etc. Et c'est aller jusqu'à ce que, une fois par mois, ce groupe de volontaires va à la librairie avec les bibliothécaires acheter les bouquins. C'est-à-dire qu'on dit à chacun, tiens, t'as 50 euros. Et ils choisissent les bouquins et ensuite, ils font le point pour ne pas acheter évidemment tous la même chose. Mais il y a vraiment, hein, de A à Z, je dirais, une transmission de cette expertise-là. Ce que j'appelle l'expertise déplacée, et Lionel en parlait très bien tout à l'heure, c'est l'exemple type, c'est Louise Michel à Paris, la BM, où en gros, les bibliothécaires leur expertise, elle est plus tant en tant que bibliothécaire qu'en tant qu'animateur de projets participatifs. Voilà. Je pense que Vivier va nous en parler de ça aussi. Vraiment une expertise déplacée. Et puis, je dirais aussi parfois une non-expertise partagée. On a des projets sur lesquels finalement bibliothécaires et habitants ont la même non-expertise. Et c'est ça qu'on va partager ensemble. Un exemple, c'est là à New York. Je suis désolée, mais je suis hyper fan de cette bibliothèque sur les projets participatifs. Je vous encourage vivement à aller voir ce qu'ils font. Ils ont mis en place une plateforme qui s'appelle Oral History Project, donc projet d'histoire orale. Et en gros, c'est venu d'une bibliothécaire à Greenwich Village qui un jour s'est dit « Mais tiens, il n'y a que des vieux dans mon quartier. » Ce qui est vrai, à Greenwich Village, il n'y a plus que des vieux. Il n'y a que des vieux. Et bon, c'est malheureux à dire, mais un de ces jours, ils vont certainement mourir. Et c'est dommage parce que finalement, c'est vraiment ce qu'elle s'est dit, finalement, on ne sait pas, à part quelques bouquins qui ont travaillé sur Greenwich Village dans les années 60-70, finalement, quand ils vont mourir, on va perdre quelque chose de leur mémoire, de leur souvenir et tout ça. Et donc, elle a inventé ce truc où elle s'est dit, bah tiens, on va aller faire de l'histoire orale. Elle est allée, enfin, ça c'est toute une organisation, peu importe, je vous en reparlerai si ça vous intéresse, mais... ils se sont organisés et elles mènent des enregistrements d'histoire orale, ce dont elle n'est pas experte. On est d'accord qu'un bibliothécaire n'est pas expert en histoire orale, mais les habitants aussi. C'est-à-dire que les habitants étaient en mesure de dire, moi, je veux bien interroger quelqu'un que je connais pas. D'autres habitants disent, moi, je veux bien être interrogé, etc. Et les bibliothécaires ont fait les actions comme les habitants, c'est-à-dire avec la même méconnaissance. Ils ont suivi les mêmes formations, ils ont monté le projet tous ensemble, quoi. Pensez aussi à l'accessibilité, mais ça, voilà. Donc, le problème de diversifier les sujets, c'est évidemment le management, question de management, c'est les pertes de repères dans les équipes, hein, si vous dites à votre équipe, non, t'inquiète, ils vont faire les acquisitions à notre place. Pour quelqu'un qui, depuis 20 ans, fait des acquisitions et qui, vraiment, c'est voilà, le corps de son métier, le cœur de son métier, le corps de son métier, bon, bah, évidemment, c'est très douloureux. Donc, il s'agit vraiment de travailler, de faire un très fort accompagnement en communication interne et en formation pour que chacun retrouve sa place, en gros. Et justement, si on est sur de l'expertise transmise, on garde une certaine forme d'expertise, d'accord ? On donne pas tout, on transmet, c'est pas pareil. Le deuxième problème, c'est est-ce qu'on est vraiment prêt à laisser le pouvoir ? Peut-être que si on le testait en interne d'ailleurs, d'abord, genre par le management participatif, peut-être alors on aurait un peu plus une vision de ce que ça pourrait donner si on le fait avec le public. Et puis la dernière question, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, tous vaut-il, quoi ? C'est-à-dire, le gars qui vient raconter comment il fait pousser ses carottes... ouais, moi ça m'intéresse, j'aime bien les carottes, mais bon, est-ce que ça a une place dans la bibliothèque ? Quelle place on trouve ? Et c'est là où votre expertise de bibliothécaire, c'est-à-dire de fan de Melville, cette fois-ci, Dewey, doit prendre toute sa place. C'est-à-dire, quelle place on trouve dans cette classification à des savoirs qu'on pourrait dire mobiliser, appliquer, etc. Comment est-ce qu'on complète ? Comment est-ce qu'on crée, à côté de savoirs qui sont académiques, reconnus, etc., estampillés, comment est-ce qu'on fait une place pour justement des compléments ? À un savoir qui est plus classique. Derrière, on va me tuer, là ? Ouais, ouais. Donc, je vais très vite. donc, je passe juste aux limites de valoriser la parole. Vous regarderez le PowerPoint. De toute façon, c'est très facile à comprendre. Les limites de valoriser la parole, hein, c'est bien de vouloir montrer que les gens ont participé, etc., mais attention à ne pas en faire un événement. Genre, oh, ils ont participé, c'est fantastique, etc. Ça n'a plus de sens sinon. Sinon, en fait, vous instrumentalisez la participation. Il s'agit vraiment de l'inscrire dans une communication dans la durée, le replacer dans ce qui va venir ensuite, dans ce que ça crée. Il ne faut pas non plus en faire une anecdote, ce qui est souvent le cas, c'est-à-dire que souvent, bah, vous avez 10 personnes qui viennent. Bah, c'est énorme, hein, 10 personnes sur un projet participatif parfois. Sauf que quand vous l'écrivez dans le journal du local, 10 personnes ont participé, ça c'est ridicule, hein, ça fait anecdotique. Donc il s'agit vraiment de le présenter comme quelque chose d'expérimental, et pas expérimental au sens, on teste pour voir ce que c'est, mais expérimental au sens de, c'est quelque chose qui se renouvelle et qui se construit petit à petit, etc. Et puis, attention à ne pas donner l'impression qu'au fond, la bibliothèque pourrait très bien marcher sans nous. Il s'agit vraiment de redéfinir où est votre expertise et de travailler ce discours-là auprès des élus. Parce que je l'ai déjà eu, ça, hein, des collègues qui m'ont dit « Oui, mais nous, du coup, ils ne veulent plus former nos bénévoles. » Ils disent « Bah, c'est bon, ils se débattent très bien, vos bénévoles. Ils n'ont pas besoin d'être formés pour être bibliothécaires, donc on ne vous donne plus d'argent. » Je dis « Mais là, c'est vous qui avez un problème de discours. Si vous considérez que, du coup, suffit de venir à la bibliothèque pour savoir être bibliothécaire. » Donc, attention à travailler ça. Et enfin, dernier point, la culture citoyenne ou participative des bibliothécaires. Là, je voudrais juste m'arrêter sur un truc, c'est que il me semble qu'on fait ce métier pour changer le monde. Voilà. Et j'ai même tendance à dire, parce que je suis un peu désagréable comme personne, que si on ne fait pas ce métier pour changer le monde, il ne faut pas le faire. On ne travaille pas pour la démocratie qu'on a aujourd'hui en tant que bibliothécaire, on travaille pour la démocratie qu'on veut avoir demain. Et si on ne le fait pas pour ça, et c'est là où la neutralité et l'engagement doivent être questionnés, on s'engage bien en tant que quelque chose quand on veut être bibliothécaire. Sinon, vous ne seriez pas dans des bibliothèques territoriales ou bibliothèques universitaires, c'est-à-dire des établissements publics. Quelque part, c'est un engagement, c'est une vocation à quelque chose qui est de l'ordre du politique. On ne peut pas construire un parcours de bibliothécaire aujourd'hui sans se poser la question de son engagement à la face de la société. Il s'agit vraiment de se poser la question de qu'est-ce qu'on veut changer dans le monde et comment on veut accompagner ce changement-là. Ça ne veut pas dire que c'est vous qui allez le changer, ça veut dire que vous êtes une institution qui change le monde. Moi, j'en ai marre du pilier de la démocratie. Ça m'exècre cette expression parce que ça veut dire qu'on ne bouge pas. Ça veut dire qu'on est là, qu'on porte la démocratie et que rien ne bouge. Moi, je ne veux pas être un pilier de la démocratie. Je ne veux pas être ça. Ce que je veux, c'est être un acteur de la démocratie. Et il me semble que les bibliothèques, elles peuvent être ça. Et la participation, ce n'est pas l'acmé de l'action politique. Mais c'est aujourd'hui quelque chose dont on peut se saisir pour construire cette action politique. On n'est pas obligé de s'y jeter à fond. On n'est pas obligé de faire que ça. Ce serait complètement absurde. Mais en revanche, se questionner régulièrement sur la dimension participative de la bibliothèque, c'est aussi se donner la possibilité de changer le monde. C'est aussi se donner la possibilité de faire plus que de changer de société. Plus que de faire société, c'est de faire communauté. Et pour faire plaisir à Lionel, j'ai envie de dire que d'une certaine manière, c'est redonner du sens au mot fraternité. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, je propose à Michel. Ah, il est là. À Michel de venir nous parler du projet de Léon. Voilà.
Bien, bonjour à tous. Je ne vais pas vous parler bibliothèque, mais musée. J'espère que ça posera de problèmes à personne. Je n'ai pas de PowerPoint. Donc on est directement connecté sur Facebook, sur la page de Léon Vivien dont je vais vous parler. Je voudrais juste remercier les organisateurs de m'avoir convié pour, d'après ce que j'ai pu comprendre, poser un point de vue autre, un exemple qui ne soit pas un exemple de bibliothèque et de participation. C'est donc voilà, un grand merci à eux de m'avoir convié à ce moment de fraternité. Et j'aimerais pouvoir aussi vous expliquer qu'en fait c'est un élément... comment dirais-je, participatif, mais qui n'a pas été conçu comme cela et qu'il est devenu à notre grande surprise. Voilà, donc c'est un exemple un petit peu atypique, mais qui finalement peut susciter un certain nombre de réflexions. Donc, je vais vous frustrer puisque je ne vais pas vous montrer d'image du musée. Parce que je me dis que le meilleur moyen, c'est qu'à minima, vous alliez voir le site internet www.musée-de-la-grande-guerre.eu. Et au maxima, et encore mieux, c'est bientôt les vacances, que vous puissiez prendre un peu de temps pour venir dans la belle ville de Meaux pour visiter en direct ce musée, parce qu'il n'y a rien de tel que l'expérience d'une visite en réel, plutôt que de voir des belles photos dans un PowerPoint. Donc je vous invite fortement à venir à Meaux. Alors vous ne savez peut-être pas où se trouve Meaux. Si, certains oui, voilà. Donc c'est à côté de Disneyland Paris, donc là tout le monde voit où c'est, voilà, donc c'est important, hein. Enfin voilà, c'est souvent comme ça, j'ai fait plusieurs conférences à l'étranger, et en général, vaguement, si cheese, brie, ok, voilà, mais après ça va pas plus loin, et après je dis Disneyland Paris, ah oui, ok, très bien, donc en effet c'est à 20 minutes de Disney, donc voilà, c'est très 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 facile à trouver. Donc le musée est né en 2011, très rapidement, on a ouvert le 11 novembre 2011, et en fait, le musée est né de l'acquisition d'une collection auprès d'un privé qui s'appelle Jean-Pierre Vernet. Je ne vais pas passer deux heures à vous expliquer la genèse du musée, mais je voulais juste vous citer le nom de Jean-Pierre Vernet, puisque vous êtes bibliothécaire, vous connaissez donc les bandes dessinées de Tardi. Et en fait, Jean-Pierre est ami de Tardi depuis 35 ans, et il a toujours prêté ses objets à Tardi pour que Tardi puisse faire ses BD 14-18, et notamment leur dernière signée ensemble est Putain de guerre, qui est signée Tardi-Vernet, donc c'est ce fameux Vernet-là. Voilà, pour que vous puissiez le situer. Et on a donc créé un musée à Meaux, puisque Meaux est le lieu de la première bataille de la Marne, hein, du 5 au 12 septembre 1914, et c'est l'endroit où est tombé Charles Péguy. Donc Charles Péguy est en fait enterré à 5 km de Meaux, puisqu'il est tombé au cours de cette bataille le 5 septembre. Donc ça, c'est pour vous dire en deux mots que c'est donc bien évidemment le plus beau musée du monde, que c'est le plus grand musée d'Europe, voire du monde, je pense, sur la Première Guerre mondiale. Vous connaissez peut-être le mémorial de Verdun, vous connaissez peut-être l'historial de Péronne. On est un petit peu plus important en superficie et en diversité de collections. Voilà, ceci étant dit et la pub étant faite, je vais maintenant vous parler du projet de Léon. On a eu la chance dans le cadre du musée d'avoir en 2012, donc je vous disais que le musée a ouvert en 2011, en 2012 d'avoir, on va parler mécénat, puisqu'on a eu une grande agence de publicité, DDB pour ne pas les citer, qui est venue nous rencontrer en nous disant, écoutez, on est archi fan de votre musée qui vient d'ouvrir. Nous, on fait du mécénat de compétences pour Greenpeace. On aimerait bien en faire pour vous. Donc, j'ai cru que c'était une blague, hein, la première fois que je l'ai eu au téléphone, le PDG de DDB. Et on s'est rencontrés. C'était pas une blague. Ils avaient une campagne de pub toute prête. Ils avaient tout compris à ce qu'on était, à ce qu'on voulait dire. Enfin, voilà. Et donc, DDB a fait notre première campagne de pub pour les 1 an du musée. Bon, voilà, super. Bon, génial. Merci. Enfin, voilà. Et puis moi, je pensais que ça s'arrêterait là. Et puis, un mois après, fin d'année 2012, l'agence revient et nous dit, en fait, on a un autre projet. Oui, OK. Et on s'est dit, si on essayait de répondre à la question, et si Facebook avait existé en 1914 ? Donc, tout de suite, moi, je dis, oui, c'est intéressant de répondre à cette question. Et c'est comme ça que le projet est parti. En effet, si Facebook avait existé en 1914, qu'est-ce que les poilus auraient pu raconter sur leur page voilà. Et donc, à partir de là, moi, j'ai dit banco, OK, on essaye de faire ce projet parce que c'est juste génial. Ça correspond juste à ce qu'on a envie de faire dans ce musée, à savoir comment on parle de la Grande Guerre, d'un sujet qui a 100 ans, à la mode d'aujourd'hui et aux gens d'aujourd'hui. Donc, très vite, s'est posé la question de réalité ou fiction. Est-ce qu'on partait sur des archives du musée qu'on mettait en scène sur une page Facebook, ce qui supposait, puisqu'on voulait vraiment rentrer dans le principe de Facebook, qui supposait qu'on inventait à ce personnage réel qu'on trouverait dans nos archives une femme, une famille, des amis. Enfin voilà. Donc déontologiquement, on trouvait ça un petit peu limite. Et puis, il faut quand même reconnaître aussi qu'il y a quand même, même si on a énormément de correspondances, de carnets, de journaux quotidiens de soldats, c'est pas non plus tout le temps passionnant ce qu'ils racontent, hein, sur ce quotidien-là. Et il n'y avait pas la possibilité de pouvoir aborder un certain nombre de thèmes qu'on souhaitait aborder sur une période assez courte. Donc du coup, on a pris le parti de la fiction. On a pris le parti de la fiction, nourri de nos archives et de nos collections. Et en fait, donc DDB, il y a eu un auteur qui a écrit l'histoire de Léon Vivien et un directeur artistique qui l'a mis en scène. Et nous, au niveau du musée, il y a eu donc la chargée de communication qui était la cheville ouvrière, la chef de projet pour l'ensemble de ce projet. On a sollicité la documentaliste qui a fait toutes les recherches iconographiques, parce que tout de suite, on s'est dit, OK, les postes de Léon, ça sera juste l'occasion de valoriser nos archives. Donc, je pense que je dois avoir encore quelques exemples. Voilà, des photos de collection. Voilà, ici, vous avez le petit... Je ne sais pas pourquoi j'ai cette barre au milieu. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, les objets de collection qui... Là, vous avez un avion d'artisanat tranché. Voilà. Donc l'idée, ça a été pour chaque poste, la plupart des postes ont été illustrés, donc illustrés avec nos collections. Notre webmaster, bien évidemment, parce que du moment où on utilisait la plateforme de Facebook. Un assistant du service conservation pour toute la vérité historique, la légitimité des choix iconographiques par rapport à l'histoire et au texte. Et puis, bien évidemment, nous avons validé toute l'histoire de Léon, parce qu'en fait, Léon, toute l'histoire a été écrite d'un coup, comme un roman, finalement. On a préparé tous les postes avec toutes les illustrations. Ça nous a pris à peu près 4 mois. entre le travail de l'agence et nous. Et on a été à un moment donné prêt pour mettre, on a prévu, donc il y avait un mois et demi de mise en ligne de tous ces postes préparés. Donc en gros, 4 mois de travail pour 1 mois et demi de présence quotidienne sur la toile. Donc on a créé la page de Léon. Je ne vous cache pas que la difficulté majeure pour l'équipe de DDB, ça a été en fait de pouvoir utiliser Facebook. Donc on avait sollicité Facebook pour savoir s'ils voulaient être éventuellement un partenaire. On n'a jamais eu de réponse. Donc on y allait tout seul, on a créé notre page. La plus grande difficulté, ça a été de changer les dates pour pouvoir mettre des dates de 1914 dans Facebook. C'est juste pas possible. Donc ça, ça a été le gros boulot du directeur artistique d'arriver à faire ça. Et en fait, vous le voyez, avoir tout en accès. Attendez, je vais vous trouver un exemple, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, vous voyez par exemple, là vous avez Lulu Landouille, tout ça, ce sont les copains de Léon. Ça, en fait, on postait ça. C'est-à-dire ça, c'est une image, d'accord ? On n'écrivait pas chaque ligne d'intervenant. Nous, quand on préparait les postes, il y avait tout l'échange avec les copains de Léon ou sa famille était prêt. Et donc, c'est ce qu'on postait en lien avec le poste de Léon. Et donc, il a fallu après qu'on lance ça. Donc, comment lancer ça après ces 4 mois de travail ? Finalement, on fait une conférence de presse chez DDB à Paris un soir. C'était un mercredi soir à 18h. On invite des journalistes. On invite surtout, DDB avait ciblé un certain nombre de blogueurs, parce qu'on s'était dit que c'était ça qui serait la porte d'entrée, qui nous paraissait idéale. Et on met en ligne, allez, on fait la conférence de presse à 18h, voilà, ça passe, on passe, allez, 3/4 d'heure de présentation, on fait un petit pot, on mange du brie, enfin voilà, ça se passe bien. Et allez, à 21h, 21h30, 22h, je ne sais pas, on poste. On met en ligne, ça y est, la page de Léon. Et donc là, se passe ce qu'on n'aurait jamais cru ce qui se passerait. Enfin, voilà, on ne savait pas ce qu'on faisait. On y allait, voilà. Là, je ne vous cache pas, vous savez, sur Facebook, là, on ne le voit plus, mais vous savez, vous avez votre nombre de fans sur la page. Et bien donc, à partir, en gros, pendant 48 heures, à partir du moment où on l'a mis en ligne, le compteur tournait. Voilà. Ça ne s'arrêtait pas. Et donc, le lendemain, on était au musée et on était tous sur nos ordis et on regardait le compteur qui tournait. Et en 48 heures, on a dépassé les 20 000 fans. C'était juste, ça s'est parti comme... je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, mais voilà, on a eu un entrefilé dans Grazia, enfin, vous voyez, par les musées de la Grande Guerre, dans Grazia, la chargée de com' a été très, très fière. Enfin, c'était juste... ça a été incroyable. Moi, j'ai fait je ne sais pas combien de télé, des radios, Europe 1 qui nous appellent, leur émission, Internet, machin, enfin, un truc. Voilà, c'est parti comme une... ça fait boule de neige, quoi, enfin vraiment. Et c'est vrai que l'effet, là, pour le coup, des DB avait été pertinent en conviant des blogueurs, puisque ça s'est vraiment répandu sur toute la toile. Donc ça, c'était la première grosse surprise. Waouh, super. Et la deuxième grosse surprise, c'est qu'en fait, les internautes, et c'est là que j'arrive à l'effet participatif auquel on ne s'attendait pas, c'est qu'en fait, les internautes... Donc, je vous disais que les échanges entre Léon, sa famille, ses copains, c'était des photos. Et vous avez, en fait... vous voyez qu'en fait, sur chaque... voilà, vous avez là Dany Marteau et Serge Reynaud ne sont pas des amis qu'on avait inventés, ce sont des vrais internautes. Et en fait, les internautes, ce sont tous ces fans qui ont aimé la page, sont complètement appropriés la page de Léon. Et ont commencé à raconter leurs histoires familiales comme s'ils s'adressaient à Léon. Enfin, il y a eu un truc complètement... déjà, Léon a fait partie de leur ami. C'est quand même un ami qui n'existe pas. Et on l'avait mis, hein, on l'avait vraiment expliqué en début du projet. Je crois que sur le début de la page, il y a ceci, ou vous savez, dans les à côté, sur la page, il y a écrit ceci est une fiction, ce n'est pas un vrai personnage. Enfin voilà, un vrai personnage. en fait, les gens, ils faisaient partie de leurs amis, Léon, et donc il a suscité des échanges incroyables de gens qui donc racontaient peut-être que tu vas voir mon grand-père, il est du 15e RI, il a été engagé, peut-être que tu es sur Verdun et si tu le croises, n'hésite pas à lui passer le bonjour. Enfin, un espèce de télescopage du temps, de l'espace, un truc incroyable. Et nous, en fait, on ne faisait que le modérateur, c'est-à-dire nous, je dis le musée, donc il y avait le webmaster, la chargée de com et moi-même, où nous, tous les jours, on allait à tour de rôle sur la page et on modérait. Très sincèrement, je crois qu'on a censuré deux trucs où c'était du genre le rien à voir, donc c'était vive l'euro, c'était pas l'euro, mais enfin ouais, un truc qui n'avait rien à voir avec Léon ou l'histoire, mais les gens étaient très respectueux et les échanges ont toujours été cordiaux. Et puis on ramenait sur des vérités historiques, à savoir il y a eu je vous invite vraiment à aller voir la page, donc la page est toujours en ligne là, elle est sur Facebook, donc vous pourrez aller la voir. Il y a eu un grand échange sur les gaz où tout le monde y allait, non je sais mieux, enfin vous voyez, tout le monde savait mieux ce qui s'était passé pour les gaz. Donc à un moment donné, nous on intervenait avec la page officielle du musée et on disait, bah voilà, les gaz, ça s'est passé là, c'était pour la première fois en avril 15 en Belgique, machin. Enfin, voilà. Donc nous, on avait cet apport, on va dire, historique qui permettait de mettre tout le monde d'accord, mais ça a suscité, voilà, là, j'ai vu des commentaires 14-18, des gens qui disaient, moi j'ai tel objet chez moi, est-ce que quelqu'un peut me dire à quoi ça correspond? Il y en a qui, il y avait des, je pense, des gens qui étaient un peu auteurs ou écrivains, je ne sais pas, qui ont raconté des histoires fictives ou qui pouvaient mettre en scène Léon, enfin voilà. Et il y a une espèce d'empathie de ces gens qui était très forte, puisqu'on avait des commentaires de gens qui disaient, Léon, quand c'est difficile, pense à ta femme les soirs où c'est un peu dur, n'oublie pas qu'elle t'attend, enfin, un truc vraiment incroyable. J'aurais presque envie de dire, et si Lionel en est d'accord, qu'il y avait une espèce de très grande fraternité entre tous ces internautes et ce pauvre Léon tout seul et qui risquait sa vie sur le front. Et donc ça a été participatif, j'ai envie de dire, malgré nous. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui, on s'est laissé complètement. On a fini au bout d'un mois et demi à plus de 60 000 fans sur la page. On en est à 64 000 aujourd'hui, donc ça continue en fait. Depuis 3 ans, c'était en 2013, hein. Donc depuis 3 ans, la page est en ligne, on n'a rien rajouté de plus, les gens continuent d'aimer Léon. Voilà. Les enseignants ont dû faire des pieds et des mains dans les collèges pour avoir pour qu'on puisse débugger les ordinateurs, enlever les fils pour qu'ils puissent accéder à Facebook pour pouvoir suivre la page de Léon avec leur classe. Enfin, voilà. Donc ça a vraiment pris des proportions tout à fait incroyables. Donc plus de 20 pays. Touchés, donc je vous ai plus de 60 000, voilà, et surtout une tranche d'âge qui était pour nous importante, on est à plus de 50% sur 25-45 ans, donc pas forcément un public qu'on voit souvent au musée, donc en tout cas, on a vraiment réussi à toucher ça. Alors, qu'est-ce que, au final, pour terminer rapidement et tenir le temps imparti, qu'est-ce que, donc ça ne nous a rien coûté. Enfin, je veux dire, c'est quand même important. Enfin, je veux dire, quand je vois l'impact que ça a eu, ça ne nous a rien coûté, mis à part d'acheter quelques bris et du pain pour le pot de lancement à la conférence de presse. Donc, voilà. L'impact est gigantesque. Alors, il est très difficilement chiffrable pour nous, bien évidemment. On sait ça a déclenché des visites au musée parce que sur le livre d'or, des gens nous ont dit, ah, on est venu grâce à Léon, voilà. Les collègues de l'accueil qui avaient des demandes, il y a une vitrine sur Léon Vivien. Voilà, non, il n'y avait pas de vitrine sur Léon Vivien, pour cause, il n'a jamais existé. Mais donc on sait qu'il y a eu, ça a déclenché des visites. On a des visiteurs étrangers qui nous ont dit, la prochaine fois qu'on vient en France, on passe forcément visiter le musée, ça nous a donné envie et tout ça. Donc on a gagné en renommée. Et j'ai envie de dire en retombée indirecte, on va dire plutôt à moyen ou long terme, ça c'est évident. Et puisqu'on était dans un truc complètement délirant, à l'issue de ce succès, un éditeur nous appelle et nous dit « Bonjour, j'aimerais bien faire un livre sur Léon Vivien, je prends tout à ma charge, tout ça. Bah, » écoutez, allons-y, soyons fous. Donc on a fait ce livre qui est là, aux éditions de L'Opportun, donc qui est la reprise en fait des pages de Léon et de toute l'iconographie sous format livre. Donc c'est intéressant si on passe du numérique au livre. Donc c'est aussi, enfin voilà. Enfin, je pense que ça s'est pas très bien vendu. Donc à mon avis l'éditeur, il était sûr qu'il allait faire un super coup. Je pense qu'il est un peu déçu, mais bon ça c'est autre chose. Ce qui était intéressant, c'est parce que les internautes nous avaient dit ah on aimerait bien garder une trace. Voilà, garder une trace de Léon. Donc l'ouvrage existait et un ouvrage qu'on a nous complété par flashcode pour fournir plus d'iconographie. Voilà, donc ça nous a permis ça aussi. Et puis, vous voyez, ça fait 3 ans, je suis encore conviée pour parler de cette expérience-là. Et je pense que le meilleur exemple de la réussite de ce truc, c'est qu'on a été copié. Donc super, parce qu'à partir du moment où vous êtes copié, c'est que votre idée est certainement la bonne. Donc en l'occurrence, le mémorial de Caen a pris exactement le même principe. Alors vous connaissez peut-être sur Twitter, il y a des tweets historiques. On reprend en général des archives et on tweet chaque jour des archives. Enfin voilà, c'est pas du tout le principe de la fiction, voilà. Mais le mémorial de Caen l'a fait. Je crois que je pense que c'est comme tout roman, tout scénario de film, il faut qu'il y ait une bonne histoire. Et là, on avait des gens, donc c'était le métier d'écrire des histoires dans cette agence. Et je pense que c'est ce qui a permis que le projet a vraiment décollé. Et puis, bien évidemment, après un succès comme ça, vous avez des élus qui trépinent et qui disent c'est quand Léon II le retour, quoi, parce que il faut voilà, bon la seule chose c'est que Léon est mort, voilà, je vous dis la fin, voilà, Léon est mort. Donc après avoir pensé travailler sur les zombies, tout ça pour toucher un nouveau public aussi, on a dit non. Et en revanche on a dit avec l'agence, que l'agence continue de nous accompagner, on a dit on a eu cette super idée, à nous trouver une autre idée, et j'espère qu'un jour on trouvera une autre idée pour ne pas faire autre chose qu'un Léon II. Je pense que ça serait plus intéressant de faire autre chose, et puis je pense que ça serait vraiment du réchauffé. Mais en tout cas, voilà, notre grande surprise, ça a été ça. Ça a été ces internautes qui se sont complètement emparés de l'outil. Ça prouve aussi qu'on peut faire de ces réseaux sociaux autre chose que de poster le plat du soir au restaurant ou les premiers pas du petit dernier, et qu'on, ça peut avoir du sens. Voilà. Moi, le témoignage le plus fort, c'est un collègue que je croise sur le parking de la mairie à Meaux qui me dit « Tu sais, j'aurais jamais ouvert un livre d'histoire, mais j'attends tous les jours le poste de Léon ». Et pour moi, c'était la plus belle des récompenses, parce qu'on a vraiment réussi à toucher. Voilà, on a beaucoup parlé de public et de ces nouveaux publics. Je pense que l'outil multimédia et les réseaux sociaux sont vraiment un moyen de toucher ces nouveaux publics. Il faut du contenu, voilà. Et quand vous avez du contenu, je pense que tout est possible. Voilà. Donc après, à votre dispo pour toute question, s'il y a quoi que ce soit. Merci.
Merci Michel. Juste, on va faire intervenir les collègues des Yvelines et puis on gardera un temps pour les questions après, si ça vous convient, on viendra devant. Donc, je vous laisse la parole.
Bonjour à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Je vais dire que c'est peut-être presque une première fois pour nous, tout simplement parce que cet outil qui a été mis en place en décembre 2015, mais qui est en préfiguration, puisque Christelle, qui m'accompagne, était le chef de projet depuis février 2015, donc un long projet. Mais c'est la première fois qu'on en parle à l'extérieur du département des Yvelines. Donc c'est intéressant aussi de pouvoir partager avec vous quelque chose qui est un petit peu différent de tout ce qu'on a vu. Alors j'ai peut-être aussi rappelé les choses. Nous, on parle beaucoup de collaboratif, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que du participatif. Donc j'en reparlerai tout au long, tout simplement parce que quelque part, nous, on est au sein d'un conseil départemental, on n'est pas du tout dans de l'opérationnel. Nos publics ne sont pas les habitants, bien sûr, in fine, ce sont les Yvelinois, mais ce sont les professionnels de la culture du département. Alors certes, les professionnels du livre et de la lecture, mais aussi les professionnels du spectacle vivant, de la musique, etc. Donc en fait, on n'est pas tout à fait sur le même niveau que l'expérience qu'on a vue tout à l'heure ou la présentation de Raphaël Bat sur les bibliothèques. Et puis, on est sur une expérimentation. Donc on est vraiment sur un projet au long cours dont on a eu, qui a été beaucoup présenté aux acteurs yvelinois, aux élus, on en reparlera sur les limites, c'est-à-dire qu'il faut le vivre pour comprendre ce que c'est. Donc du coup, on a fait juste 3-4 présentations pour vous montrer un petit peu la méthodologie de projet sur laquelle reviendra Christelle. Moi, je vais vous introduire les enjeux et je vais vous introduire les limites et puis les perspectives du projet. Mais on vous invite fortement à télécharger, parce qu'on a envoyé un support récapitulatif de 3 pages pour vous y ayez l'ensemble des éléments financiers, etc. Sur le site où vous allez mettre les supports, je suppose. Voilà. On vous invite à vous connecter, parce que vous avez le droit de vous connecter. Vous verrez qu'à un moment donné, comme on est sur un prisme territorial, si vous n'êtes pas sur les Yvelines, ça n'aura pas grand intérêt pour vous. Hein. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Mais vous pourrez voir, on a connecté pas mal de personnes de l'ENSIB, pas mal de personnes nous appellent pour dire comment ça fonctionne. Donc, ils se connectent, ils ont une autorisation, il y a des administrateurs qui donnent les droits. Mais à un moment donné, les gens de l'extérieur des Yvelines, bon, voilà, ils ne voient pas d'intérêt puisque c'est un projet vraiment territorial. Et puis, il y a un article qui va être publié bientôt dans une nouvelle parution de la boîte à outils où on explique sous forme un petit peu de storytelling toute la genèse du projet et comment ça s'est passé. Donc, vous aurez l'occasion d'avoir de la documentation ensuite. En préambule, quand même, je vais essayer de faire synthétique. On est dans un contexte de réforme territoriale, vous le savez tous, hein, et notamment au niveau des départements, ce qui est un petit peu encore plus fort en Île-de-France, puisque le département des Yvelines nous a demandé beaucoup de réfléchir sur les évolutions de la culture, de la lecture publique dans le département. Donc, nous, on se situe à un niveau non opérationnel. C'est-à-dire que le vivier, il est animé par nous, un service pour le développement culturel, où on ne fait pas d'intervention. C'est-à-dire on n'a jamais de contact avec du public. On est des facilitateurs, des stimulateurs, on est des animateurs de communautés professionnelles, mais nous n'intervenons pas en direct sur des opérations. Donc ça, c'est important à voir, parce qu'on a parlé beaucoup de bibliothèques, et si vous êtes bibliothécaire, vous organisez des expositions, vous avez des projets de parcours éducatif et culturel, vous faites énormément d'animation. Nous, c'est pas du tout pour ça qu'on le fait. On se situe à un niveau départemental comme animateur des communautés professionnelles. Le projet se situe dans un contexte de réorganisation interne aussi, et l'occasion justement de rompre avec des organisations un peu verticales et d'essayer de stimuler des équipes et de fonctionner en mode projet. Donc de ne plus avoir notamment des bibliothécaires responsables de certaines actions ou des professionnels de la culture qui travaillent par discipline, mais d'être plutôt sur des projets, en mode projet, en toute interdisciplinarité et sur des actions, sur des projets de territoire. Donc ça change un petit peu la donne. Et du coup, c'est important à comprendre dans la manière dont Christelle vous parlera de l'articulation en fait du projet. Et c'est né, en fait, au départ, donc je vous l'ai fait très rapidement, parce que voilà, je fais un petit clin d'œil à Hélène qui faisait partie de l'accompagnement du diagnostic de territoire qu'on a fait avec elle à Bibliothèque départementale. Donc, première étape, une bibliothèque départementale, c'est, puisque je vous ai replacé le contexte, ce n'est pas une bibliothèque qui intervient, c'est une bibliothèque qui fédère les acteurs du livre et de la lecture. Qu'ils soient bibliothécaires, mais qu'ils soient libraires. Il y a des maisons d'écrivains. On a un département où il y a 8 maisons d'écrivains. Donc, c'est un département assez riche en termes de livres et lectures. Donc, comment on fédère des acteurs du livre et de la lecture au-delà d'un catalogue commun ou de la fourniture de documents, etc. Ensuite, on s'est rendu compte qu'une fois qu'on travaille sur des projets autour du livre et de la lecture, ben c'est qu'il n'y a pas que les bibliothèques, les maisons d'écrivains et les libraires. Et qu'il y a des théâtres qui proposent des livres et qu'on trouve des librairies parfois dans des conservatoires et qu'il y a des festivals qui existent, qui ne sont ni des bibliothèques, ni... Et du coup, on a élargi le champ, on a beaucoup travaillé sur la culture scientifique et technique où la transdisciplinarité est très importante. Et petit à petit, on en est arrivé finalement à essayer de se poser la question comment on stimule des projets de territoire avec un outil, mais qui concerne tous les projets culturels, quels que soient les professionnels qui s'investissent dans ces projets-là. Et quand je dis professionnels, je n'ai pas dit salariés, ça veut dire des associations, des professionnels très reconnus sur le territoire, des institutions, mais aussi des habitants qui peuvent être bénévoles ou participants sur ce territoire. Et le troisième élément de contexte à vous dire, c'est que pour nous, le collaboratif au départ, c'est le numérique. On vient le voir avec Facebook. Le premier outil collaboratif aujourd'hui, c'est le numérique. Voilà. Donc, on parlait tout à l'heure Raphaël parlait tout à l'heure de le bibliothécaire qui doit faire communauté. Je pense que la première communauté dans laquelle on doit être, c'est sur Internet. Il faut absolument qu'on soit sur Internet, parce qu'on verra les limites du projet par rapport à la pratique et aux usages du collaboratif dans les communautés professionnelles. Donc, du coup, est né un projet qui a demandé de longs mois. C'est une expérimentation, donc ça n'existait pas. Il fallait inventer quelque chose qui n'existait pas, sauf dans le monde du privé. Or, nous, on avait vraiment des missions d'équité territoriale, des missions d'intérêt général, des missions de service public au niveau de la lecture et de la culture. Il a fallu tâtonner, il a fallu expérimenter beaucoup de choses. Et finalement, c'est l'équipe qui a été le laboratoire, ce que j'appelle la salle des machines de la mise en œuvre de cet outil qu'on appelle le Vivier et qu'on va vous présenter. Donc, peut-être, Christelle, tu passes par les phases du projet ?
Bonjour. Donc, je vais vous présenter un petit peu toute la méthodologie qui nous a conduit, on va dire, de l'idée à ce projet. Donc, au départ de cette plateforme collaborative, de travail collaboratif qu'on avait nommé Lire en Yvelines et qui est devenu le Vivier. Donc, comme l'a dit Marie-Christine, donc au niveau du public, donc on est bien sur un public de professionnels et aussi de bénévoles. Donc, c'est-à-dire, c'est tous les acteurs des projets culturels en Yvelines. Donc, en avançant avec les personnes qui nous ont accompagnés, notamment sur la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre du projet, on s'est rendu compte que ce qui nous intéressait, c'était surtout la capacité des acteurs à mettre en œuvre des projets. Donc mettre en œuvre des projets culturels sur le territoire, et qu'il n'y avait pas que les acteurs artistiques et culturels qui avaient cette capacité, mais aussi les acteurs éducatifs, sociaux, économiques ou touristiques. Donc l'idée, c'est vraiment de fédérer tous les acteurs qui sont concernés par tout projet culturel sur le territoire. Donc au niveau du déroulement de la conduite de projet, donc ça s'est passé en plusieurs étapes. Donc la phase conception, elle est issue du diagnostic territorial qui avait été fait sur la lecture publique sur le département depuis 2013, donc jusqu'à décembre 2015. Et on a lancé la phase expérimentale donc le 2 décembre 2015, donc la date du lancement du Vivier. Et donc jusqu'à décembre 2016, on est dans cette phase d'expérimentation. Donc qui dit expérimentation, c'est une manière aussi pour nous d'être vraiment en mode de thèse, de laboratoire, d'avoir aussi un droit à l'erreur. Et c'est assez important, en fait, quand on met en place ce type d'outil qui est assez innovant, mais qui appelle à beaucoup de mobilisation des acteurs, parce qu'on touche aux pratiques numériques, mais surtout aux pratiques collaboratives. Donc, comment s'est organisé le déroulement du projet en matière de ressources? Donc, ce projet a été conduit vraiment de manière très transversale. Donc, ça veut dire qu'on a eu un groupe de travail qui rassemblait donc la bibliothèque départementale à l'époque, le service culture, mais aussi le service archives. Donc, moi, j'ai eu la chance de pouvoir conduire ce projet en tant que chef de projet. Je suis arrivée dans l'équipe de la bibliothèque avec vraiment cette entrée qui n'était pas celle du métier. Donc, je ne suis pas spécialiste de lecture publique, professionnelle de la culture, mais pas spécialiste de la lecture publique. Et ça a été vraiment une valeur ajoutée, en fait, dans la manière de travailler avec mes collègues au niveau du service. Donc, moi, j'ai apporté vraiment une expertise en matière de conduite de projet. Donc, ça a permis d'être dans un échange, ce qu'on appelle les organisations apprenantes, c'est-à-dire que j'ai pu vraiment transmettre toute la méthodologie de projet à l'équipe, donc tout en mettant en œuvre le projet. Et vice-versa, l'équipe m'a transmis énormément d'éléments sur tous les enjeux de la lecture publique. Donc, on a été accompagné sur la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc, on a une solution technique qui s'appelle un réseau social d'entreprise. Notre prestataire, c'est JeuneSpot. Avec la spécificité pour nous, c'est que souvent, les réseaux sociaux d'entreprise, c'est interne à une organisation. Pour nous, on est sur un réseau social ouvert. C'est-à-dire qu'il y a des agents du département qui sont sur le réseau, mais c'est surtout tous les acteurs qui sont sur le territoire, donc des acteurs externe à notre organisation. Et puis, on a mis en place des instances projet, donc un comité de pilotage opérationnel. Et c'est surtout, on a cherché à voir quelles compétences on souhaitait mobiliser. Avant de mobiliser des personnes, c'est quelles compétences chacun pouvait apporter dans le projet. Et donc, évidemment, on était en mode participatif, collaboratif. Et c'est intéressant parce que quand on a ouvert le réseau officiellement le 2 décembre, en fait, nous, ça faisait 3 mois qu'on travaillait déjà en interne sur le réseau. Donc, les choses se sont construites aussi énormément en interne pour pouvoir aboutir à quelque chose de le plus pertinent possible, en fait, pour les acteurs. Donc, en matière de ressources financières, donc c'est un financement DRAC, conseil départemental, parce que le projet s'inscrit dans le cadre du contrat territoire lecture. Et donc, pour vous donner une idée du budget, donc sur la phase expérimentation, donc pour 2015 et 2016, on est sur un budget de 76 000 euros en budget prévisionnel. Et en fait, donc le coût effectif du projet est réajusté en fonction du nombre d'utilisateurs de la plateforme. Dès qu'il y a un utilisateur se connecte, on crée de la valeur. Donc, voilà, plus il y a d'utilisateurs, plus le coût est important pour utiliser la plateforme. Alors, je vais vous faire part un peu des difficultés, mais aussi qu'est-ce qui a facilité le projet. Donc, les difficultés pendant le projet, la première étape, ça a été vraiment la mise en place d'un fonctionnement en mode projet au sein de la bibliothèque départementale. Mais ça a été une expérience très riche, car c'est elle qui a permis de mettre l'équipe en hors de marche pour les évolutions des missions de lecture publique de notre institution. Une difficulté, ça a été de pouvoir mobiliser quand même les équipes au sein du groupe de travail, c'est-à-dire convaincre, comme si c'était un outil qui était vraiment en construction expérimentale. Ce n'est pas un outil de communication. Donc, au fur et à mesure, voilà, tout le monde a eu un peu, je pense, ce moment déclencheur pour comprendre de quoi il s'agissait. Mais c'est vrai que ça a été un processus, je pense, individuel et collectif pour tout le monde de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière. En fait, tout le temps qu'on n'a pas expérimenté le collaboratif, c'est pas forcément évident, en fait, d'en parler. Après, ça a été aussi de faire comprendre le projet aux décideurs, donc vraiment de les faire adhérer, donc bien leur faire prendre conscience en fait que ce n'était pas un outil de communication, et en témoigne un peu le choix du nom du réseau où on a eu énormément d'allers-retours et de discussions. Donc au départ, le projet s'appelait Lire en Yvelines. Donc tout notre projet a beaucoup évolué au fur et à mesure en ouvrant notamment à tous les acteurs des projets culturels. Et donc c'est pour ça qu'on est arrivé au nom du Vivier. Donc vraiment cette idée de d'avoir un lieu où ça grouille, où ça, voilà, ça circule, ça, y a beaucoup d'échanges, c'est fluide. Hein, et donc, c'est le vivier, activez vos projets culturels en Yvelines. Donc, on invite vraiment les acteurs à être acteurs. Voilà. Et puis, une dernière difficulté. Donc là, on a passé la phase, je dirais, de mise en œuvre du projet. Mais la plus difficile, ça va être l'implémentation durable du projet, donc dans le temps. Donc, il faut mobiliser les acteurs. Ce sont eux qui font le réseau. C'est un outil très agile. Hein, donc, ça veut dire que c'est nous qui allons... On va faire évoluer en fonction des usages de l'outil. Voilà, tout est lancé. Mais il n'y a plus qu'à aussi pour continuer à mobiliser tous les acteurs sur le réseau. Et après, il y a différentes étapes pour arriver vraiment collaboratif. Donc, s'inscrire, après commencer à regarder, faire de la veille, et après vraiment contribuer et être acteur et créer vraiment de la valeur ajoutée sur le réseau. Enfin, donc pour les facilitateurs, donc on a pu être accompagné au niveau de la maîtrise d'ouvrage et d'œuvre, donc tant sur la conception que sur la partie opérationnelle et technique. Ce qui a été vraiment précieux pour nous, comme on était sur un projet expérimental. Le fait que ce soit un projet expérimental facilite aussi beaucoup de choses, parce qu'on peut tâtonner, on peut faire des erreurs et ouvrir aussi tout le champ des possibles. On a eu aussi un bon soutien de notre élue, une fois qu'elle a bien eu l'occasion d'appréhender ce qu'était le projet, donc qui nous a vraiment permis d'avoir un portage et un appui politique en fait, sur le projet. Et puis aussi, on a comme facilitateur ce qu'on a appelé les poissons pilotes. C'est un peu les leaders, c'est ceux qui créent des groupes, notamment sur le réseau. Donc c'est sur ces personnes aussi qu'on s'appuie pour faire connaître et développer un maximum le réseau.
Donc Christelle va peut-être, tu vas te connecter sur le vivier pour que vous voyez à quoi ça ressemble exactement. Donc vous avez compris, c'est pas un intranet, c'était ça qui était difficile à faire comprendre. C'est pas un intranet, hein. C'est pas un outil de communication comme on vient de voir sur Facebook. Les élus avaient beaucoup de mal. Eux, ce qu'ils voulaient effectivement, c'était l'image. Et ce n'est pas un outil de communication. Et c'est pour ça que c'est un outil collaboratif, c'est un outil de travail. C'est-à-dire comment un département peut-il stimuler des projets, donc faire travailler des acteurs ensemble pour des projets de territoire et des projets culturels, même s'ils ne sont pas tous issus du monde de la culture. Ça veut dire que le premier passage, vous le voyez, c'est un truc tout bête qu'on a du mal à faire comprendre. Alors nous, nos équipes, parce que là on voit Sylvie qui est toute pimpante de chez nous, mais mettre sa photo... Ce n'est pas dans la culture de l'administration publique, hein, de la fonction publique, ni des bibliothécaires qui ne sont pas des professions qui s'exposent, de mettre une photo. Donc une des premières difficultés quand on allait présenter ça dans les bibliothèques, c'était les directeurs. Là, quand on parlait de résistance au management, moi je me fais beaucoup de soucis sur les nouveaux modes de fonctionnement en transversalité ou en horizontalité. Ce sont les responsables. Comment, sur ce vivier, mon équipe pourra travailler, dire des choses sans que je sois au courant? Je ne peux pas être mis en copie, etc. Ah ben non. C'est-à-dire que c'est un espace contributif complètement ouvert. C'est-à-dire qu'on mise sur les talents des personnes, sur leurs expertises. On oublie qu'ils appartiennent à tel équipement, etc. On rebondit sur ce que disait Raphaël tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a différents savoirs. Et même dans une équipe, vous avez des savoirs que vous n'imaginez même pas, parce qu'on reste souvent sur la fiche de poste ou sur les missions de la personne, mais elle a énormément de talents que ce type de réseau fait naître. Donc les premières difficultés qu'on a rencontrées, c'est, vous voyez, Alain Schmitt, qui est un élu, hein, en fait, on a des élus, c'est-à-dire que dans ce réseau, on se retrouve avec des élus, des professionnels, des associations de bénévoles qui voient des élus intervenir, etc. C'est-à-dire que c'est l'individu qui est mis en avant avec ses expertises, ses envies de travailler, de partager. Et c'est extrêmement important de voir comment ces personnes-là peuvent rentrer en contact et se connecter. Ensuite, le but de tout ça, c'est de les connecter sous forme de groupes, donc des groupes de communautés. Donc on a une rubrique groupe et les groupes, alors nous quand on a ouvert, on a créé des groupes, mais on voit maintenant les groupes se créer par d'autres. Par exemple, je vois un groupe entrepreneuriat culturel, c'est une professionnelle des Yvelines qui souhaite travailler sur ces nouveaux modes de diffusion de la culture, qui l'a créé. Sylvain Marquis, qui est un bibliothécaire, qui voulait absolument qu'il y ait un groupe autour du jeu en bibliothèque, a créé son groupe. Ce qui fait qu'ensuite, une fois qu'on est inscrit, on adhère au groupe et on se retrouve dans des communautés d'intérêt qui permettent en fait d'échanger et de travailler sur des projets de territoire par rapport à cet intérêt. C'est-à-dire que nous, on a considéré quand même que la position du département et notre rôle était aussi de valoriser l'attractivité du territoire et de travailler pour la dynamique du territoire. C'est ça que je vous disais, si vous n'êtes pas sur les Yvelines, OK, vous allez peut-être prendre des choses, mais vous avez des groupes très, très importants qui s'appellent Agir. Donc, on a fait des découpages par territoire, et notamment les grands territoires des intercommunalités, hein, Sud-Yvelines, Seine-Aval, Grand-Versailles, Centre-Yvelines, qui correspondent en fait soit à une communauté urbaine, soit à un regroupement de communes, etc. On n'a pas du tout les mêmes types de groupes ou les mêmes types de projets quand on est sur des territoires ruraux. Il y a 160 communes de moins de 2000 habitants dans les Yvelines, on n'y pense pas. Ça doit être un peu le cas de la Seine-et-Marne aussi. Hein. Et ce n'est pas du tout, ce ne sont pas les mêmes problématiques que quand on est à Versailles ou quand on est à Sartrouville ou à Saint-Germain. Donc c'est extrêmement important qu'il y ait aussi des entrées par territoire pour que des gens qui sont de proximité puissent se connecter et se dire, bah, tiens, on va travailler là ensemble sur une heure du compte partagée, sur une programmation partagée, etc. Et puis on a des entrées par projet. C'est-à-dire que vous avez des acteurs des Yvelines qui ont un projet. Donc là, il y a un projet, par exemple, sur une bibliothèque universitaire qui veut mettre en place un Fab Lab, je crois, hein, c'est une bibliobox, voilà, au sein d'un lieu. Donc la bibliobox, voilà, l'université dit que nous on avait déjà travaillé autour de la bibliobox. Donc en fait, ils remplissent une fiche projet, ils font un appel à participation. Des acteurs qui sont déjà identifiés. Et du coup, on arrive dans cet espace numérique à faire se connecter les personnes entre elles. Donc, on voit venir des personnes qu'on ne connaît pas, dont on ne savait même pas qu'elles avaient investi tel ou tel projet et qui commencent à travailler ensemble. Vous voyez bien que le but aussi, c'est de faciliter les rapprochements, faciliter les mutualisations et faciliter aussi les économies, les financements, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on sait que on ne peut plus faire chacun dans son coin parce que ça coûte beaucoup plus cher. Donc, du coup, on voit des synergies se monter progressivement au sein de ce réseau. Donc, ce que Christelle expliquait, c'est que nous, en tant que l'équipe, donc on n'a pas un webmaster. C'est-à-dire que comme on s'est repositionné vraiment sur de l'ingénierie et de l'accompagnement de projet, du coup, nous, toutes les personnes de l'équipe animent le réseau, sont en capacité d'intervenir, de rentrer en contact, de susciter, de dire voilà, tiens, j'ai vu ça, est-ce que ça vous plairait ? Et ensuite, donc, l'animation se fait par toute l'équipe, ça fait vraiment partie des missions de l'équipe. Et c'est vrai que tout le monde publie, et du coup, on en a fait même un outil interne, c'est-à-dire qu'on a un groupe pôle développement culturel. Oh, on peut peut-être le montrer. Il n'y a que nous qui le voyons, c'est-à-dire que pour limiter les mails, les fichiers joints, etc., c'est notre espace de travail. Donc là, vous voyez, les collègues y réagissent, etc. Moi, j'annonce les choses. Donc à partir du moment où on peut partager, tout est partageable. Et depuis une semaine, on y a introduit, vous voyez, le mot PAF, le pôle administratif et financier, qui voulait comprendre parfois quand ils font des versements de subventions, quand ils payent des choses. Ils disaient des fois, mais c'est quoi ce truc, le tapis de lecture ? C'est quoi un tapis de lecture ? Et du coup, ça nous permet de mettre des photos, ça nous permet de partager, en fait, le fonctionnement interne du pôle. Donc, du coup, il y a une irrigation à la fois à l'intérieur et aussi à l'extérieur. Alors, il ne faut pas croire non plus, je vous disais, le numérique, c'est vraiment la première communauté, c'est l'ADN du collaboratif. On a bien vu qu'il fallait qu'on ait aussi le même type de fonctionnement en réel, in the real life, comme on dit. Donc en fait, comme la bibliothèque départementale organisait beaucoup de formations et que maintenant le pôle reprend tout ce qui est accompagnement, etc. Donc on fait des ateliers, on fait des workshops où les personnes qui se rencontrent sur le vivier peuvent se rencontrer en vrai dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'ils continuent leur premier contact qu'ils ont obtenu là pour pouvoir continuer à se retrouver sur des lieux qui sont des lieux collaboratifs. On va par exemple dans un Fab Lab à Saint-Quentin-en-Yvelines, on va au Château Éphémère qui est un lieu numérique collaboratif. On va sur des lieux, je dirais, emblématiques du collaboratif sur le territoire, ce qui valorise aussi des lieux parfois qui sont un peu des lieux de l'entre-soi. Donc on fait du va-et-vient entre le numérique et la vie réelle. Donc Christelle a déjà pas mal donné de limites, je ne vais pas revenir dessus. Je pense qu'on va faire le bilan, nous, à la fin de l'année, puisqu'on est dans la généralisation. Et puis, on voit de plus en plus, on est à 1300 actifs inscrits, actifs sur le réseau, ce qui est pas mal par rapport au potentiel du territoire. Petit à petit, c'est long à venir. C'est-à-dire que nous, on a un an et demi d'avance sur les acteurs. Les résistances ou les difficultés qu'on a, c'est que c'est vrai que le collaboratif n'est pas dans la culture professionnelle des administrations. Et aujourd'hui, on est un petit peu un laboratoire, mais hors sol pour le département. Aller faire comprendre ça à d'autres directions financières, etc., c'est un petit peu plus compliqué que cela. Il y a vraiment aussi... Enfin, je pense une méconnaissance de l'usage des réseaux sociaux, que ce soit en bibliothèque ou chez les acteurs culturels. On prend ça pour des outils de communication, alors que c'est beaucoup plus que ça. Et dès qu'on ouvre une porte sur les réseaux sociaux et que les gens s'expriment, à un moment donné, il faut tenir compte de ce qu'ils expriment, de ce qu'ils disent. Donc, on bouleverse aussi le panorama de la lecture et de la culture. C'est-à-dire que nous, on ne se positionne pas d'un point de vue institutionnel. On se positionne d'un point de vue facilitateur. Et là aussi, les difficultés qu'on a, ce sont des théâtres qui nous disent, ou des bibliothèques qui nous disent, mais c'est nous qui détenons cette maîtrise-là. Une association ne peut pas faire la même chose, ou un théâtre ne peut pas s'occuper de livret de lecture. Et on voit en fait des lignes qui bougent, des silos qui éclatent, tout simplement parce qu'en fait, on se concentre sur les projets des territoires. Donc voilà, alors on aura d'ici un an un peu plus de visibilité. Christelle a annoncé des chiffres, mais c'est en fait à l'intérieur, vous avez l'assistance à maîtrise d'ouvrage, vous avez énormément de choses. Ce sont des projets qui sont plus coûteux en temps, un peu comme peut-être le Facebook, en temps humain, parce que il faut s'approprier un truc tout bête, la rédaction. On ne rédige pas des coups de cœur comme on rédige sur un journal, comme on intervient sur ce type de réseau collaboratif. Et du coup, ça demande pas mal d'appropriation. Donc, on fait beaucoup de formations auprès des acteurs. On leur apprend à rédiger, à réagir, à travailler en mode projet, etc. Mais d'ici un an, on aura un peu plus de visibilité sur vraiment l'usage de cette proposition qui est faite sur le territoire des Yvelines. À votre disposition pour toute question. Ça va très vite.
Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a un micro qui circule dans la salle pour les questions. Qui s'occupe de ça ? Et puis donc, si vous avez des questions sur les interventions du matin, n'hésitez pas.
Bonjour, je m'appelle Mathilde Chauvinier, je dirige la BDP d'Indre-et-Loire. Je me demandais, pour le coup, je me demandais sur la participation numérique des bibliothèques qui sont vraiment en milieu rural. Nous, on a énormément de bénévoles dans nos équipes et je sais que, ne serait-ce que pour les inscriptions aux formations, on a essayé de dématérialiser tout et on est revenu au courrier papier pour un bon nombre quand même, parce que c'est compliqué quand même. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà une première évaluation de la participation sur votre site.
Alors déjà, moi, en 2013, quand je suis arrivée, on a arrêté le catalogue papier et on a arrêté les inscriptions papier. Ce n'était pas négociable parce que je pense qu'il faut mettre les conditions de l'accompagnement à côté. Ça peut être long, mais on y arrive. Donc, petit à petit, voilà. Là, les inscriptions, on espère passer en 2017 avec les inscriptions directement dans le vivier parce que pour l'instant, ça reste sur le site web des Yvelines. Et je dirais que les bibliothèques rurales sont celles qui se sont le plus emparées. En tout cas, les acteurs ruraux, tout simplement parce qu'ils sont isolés. Ils ont vu tout de suite l'intérêt de cet outil. Par exemple, on fait des mini-stages de formation, gérer sa petite bibliothèque. Tous ceux qui participent, c'est des groupes de 8 à 10. Ils se recréent un groupe et ils continuent l'échange qu'ils ont pendant cette semaine-là. Et on leur fait des immersions de 2-3 jours. Ils partagent leur mini-stage, etc. Parce qu'eux, ils voient tout à fait l'intérêt. Parce que je pense qu'il y a une urgence dans les territoires ruraux. C'est tellement difficile l'accès à des projets, à des ressources. Quand on veut faire venir un écrivain, quand on veut organiser une heure du compte en milieu rural, c'est très compliqué. Alors eux, ils se sont emparés. Alors que ceux qui ont tout, qui ont des beaux budgets, qui ont des programmations, ils ne voient pas pourquoi ils partageraient finalement.
Oui, puis donc, limite, ils préfèrent que ce soit affiché chez eux que dans le festival du voisin.
Exactement.
Enfin, il y a ça aussi dans la collaboration.
Alors, je n'ai pas pu tout dire parce qu'on avait un temps court, mais c'est vrai que l'objectif du département des Yvelines, c'est la ruralité. C'est peut-être paradoxal, on est en Île-de-France, mais il n'empêche que c'est la ruralité. Et cet outil est corrélé à l'équipement fibre optique de l'ensemble du territoire, de manière à casser ce sous-équipement de territoire où on est en Île-de-France, mais parfois, il n'y a pas de débit, quoi. Donc, les entreprises ne s'installent pas, donc les habitants n'ont pas accès aux services. Mais sincèrement, on ne peut pas vous leur montrer, mais vous pourrez voir, les territoires ruraux sont ceux, y compris les élus, qui ont bien compris qu'il y avait intérêt à se connecter. Et du coup, ils découvrent, par exemple, des compteurs, des associations qui viennent faire des expositions, etc., parce qu'ils ont l'habitude de se débrouiller, en fait. Et les petites associations aussi. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas lâcher. Enfin, je pense que quand on est dans le numérique d'une manière ou d'une autre, par exemple, le vivier. Alors, pendant un temps, Christelle, on lui disait, c'est Madame Vivier, hein, on vous a mis des cartes. On plaçait toujours le mot à toutes les réunions. C'est-à-dire que pour l'instant, par exemple, on n'a pas de carte de visite. On demande aux gens de prendre la carte de visite qui est là. Ils se connectent sur le vivier, ils rentrent en contact avec nous. C'est-à-dire qu'il faut, à un moment donné, oui, ce n'est pas négociable. Donc, on leur dit, vous voulez poursuivre l'échange qu'on vient d'avoir, la réunion ? Le vivier. Vous voulez ci, ça ? Le vivier. Donc, on ne vous a pas montré, parce qu'on n'avait pas le temps, la messagerie et puis la banque documentaire. C'est-à-dire que nous, toutes les formations sont converties en tutoriels, puisqu'on est sur de l'ingénierie. Les tutoriels sont tous accessibles et partagés à tout le monde. Donc, je ne sais pas, vous voulez faire du désherbage, vous voulez... Là, on a fait une résidence d'écriture qui est arrivée à son terme, qu'on a appelé un laboratoire d'écriture numérique avec des collégiens. On est en train de le modéliser pour que d'autres collèges s'en emparent. Et donc, en fait, on fait des tutoriels de manière à ce que tout le monde puisse s'emparer. Alors, c'est une belle... Comme il y a tous les acteurs culturels, c'est une très belle visibilité pour la lecture publique. Parce qu'il y a des élus qui entendent plus parler de lecture publique que par les bibliothèques bénévoles, souvent qui vivaient dans leur coin, etc. Et puis, il y a des élus qui découvrent tout ce qu'on peut faire en bibliothèque, tout ce qui peut se passer autour du livre et de la lecture. Donc, mais tout ça, oui, c'est partagé.
Il y a d'autres questions ?
Bonjour, moi je m'occupe d'une petite bibliothèque rurale justement à côté de Cognac. Donc je voulais savoir, il y a des notifications en fait qui avertissent les élus de des projets. Enfin, ils doivent se connecter pour être au courant de l'actualité ou...
Non, ça fonctionne comme un réseau social, c'est-à-dire vous avez des notifications et vous pouvez dire je veux mes notifications toutes les semaines ou j'en veux pas du tout.
D'accord, donc ça leur tombe dans leur...
Oui, les élus ils ont des assistantes qui font très bien les choses.
Dans leur mail ou dans... D'accord.
En fait... Oui, tout. En fait, quand vous vous inscrivez, si tu peux monter la fiche d'inscription, quand vous vous inscrivez, en fait, ce qu'on propose, c'est... on a beaucoup travaillé sur les paramétrages, qu'on a tout paramétré avec... tout est paramétrable, en fait. Hein. Il y a d'autres entreprises qui se servent de Jamespot, mais ça ne ressemble pas à ça. Donc, en fait, on demande des coordonnées. Très souvent, on demande le lien LinkedIn aussi. Donc, de manière à montrer aussi qu'on a des compétences, qu'on a des... Et du coup, voilà. Donc, ce sont les assistantes. Après, les élus, je ne suis pas sûre qu'ils remplissent tout. Hein. Ils mettent leur titre. Si, il y a des élus. Ah ouais.
Bon, voilà. Enfin, c'est une info qui leur tombe tout cru régulièrement.
Ah,
quoi.
Voilà. Ah oui, oui, oui.
Et les gens se rencontrent après pour construire les projets une fois qu'ils ont commencé.
Oui. D'accord. Donc, tout à fait. Et nous, on vient en accompagnement s'ils en ont besoin. On vient, ils se rencontrent, ils se donnent rendez-vous. Et parfois, ils viennent nous dire, parce qu'on est organisé par territoire, donc le référent de territoire, il est au courant de ce qui se fait, ce qui aboutit, ce qui n'aboutit pas, etc. Il faut dire que derrière, nous, on a des dispositifs sous forme d'appel à projet. Donc parfois, ils convertissent leur projet en projet à plus long terme. Ils répondent à un appel à projet en commun. Donc tout ça, ça se cale dans tout un écosystème départemental qui est en construction, en fait.
La valeur ajoutée du réseau, c'est on a beaucoup travaillé sur cette fiche idées et projets qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui est vraiment un espace en fait de collaboratif entre tous les partenaires. Donc c'est faire savoir un projet, faire connaître, et le fait de faire savoir, faire connaître un projet, le projet évoluera forcément de manière différente. De manière positive et différente, en rendant plus visibles les besoins qu'on peut avoir, qui ne sont pas uniquement financiers, et qui permettent en fait de fédérer d'autres partenaires sur le territoire, et donc de développer vraiment d'autres actions.
Vous leur demandez les évaluations, non ? Les bilans ?
Là, on a travaillé, nous, sur des indicateurs du réseau, parce qu'on a nos propres indicateurs, mais pour l'instant, après, ils sont libres. Hein. Enfin, ils sont libres. Si on n'est pas conventionné avec eux, ils font ce qu'ils veulent. Enfin, alors, on peut le dire, c'est un espace qui est fait pour faire travailler les autres à notre place. Non, mais il faut bien dire... C'est-à-dire, l'idée de stimuler, c'est-à-dire, c'est de dire, les ressources dans les Yvelines, elles sont là. Je dis toujours que moi, en bibliothèque, c'est pas le catalogue de bouquins qui m'intéresse, c'est le catalogue de lecteurs. La richesse, elle est sur les publics et pas, la diversité des publics, etc., des cartes, mais pas sur les collections. Eh bien, c'est pareil. Là, il y en a qui ont très bien compris. Hein. Au début, on a été débordés, on a été obligés d'intervenir, parce qu'il y a des gens qui ont vu...
Le vivier
de contact. Quelqu'un qui veut diffuser quelque chose, je peux vous dire, parce que ce n'est pas un outil de communication, mais si vous voulez rendre public quelque chose. Donc, on était obligé d'intervenir sur une ou deux personnes, notamment à une association de marionnettes. On voyait des marionnettes partout. On en avait. C'était pas le but du jeu. Donc, nous, on régule. Mais c'est vrai que l'idée, c'est que c'est de se dire, nous, on est des stimulateurs. On est là pour créer les conditions favorables. Donc, on vous donne un espace gratuit. Vous pouvez travailler ensemble. Vous pouvez. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de travailler en mode projet. Ils peuvent faire des groupes de travail. La méthode dont a exposé Christelle. Tu peux en peut-être en dire deux mots sur le...
Oui, sur le groupe. Alors, ce qui est intéressant, donc, c'est par exemple les archives qui ont créé un groupe donc, avec les archivistes hein, sur le territoire. Et eux, ils fonctionnent complètement en mode projet, en fait, dans ce groupe. Hein, parce que l'avantage de ce réseau, donc, on a différents types de groupes. Donc, il y a des groupes de veille. Il y a des groupes bon, plus autour de incuber, c'est-à-dire se former autour de l'ingénierie. Et un dernier type de groupe sur tout ce qui est mise en œuvre en fait, de projets. Donc, vous pouvez être 10, par exemple, sur ce groupe. Ça peut être un groupe qui est mis en mode privé et changé. Donc, il y a des calendriers de travail.
Quand vous voyez la petite clé, ça veut dire qu'il n'y a que les gens du groupe qui voient le groupe. C'est ça. En fait, tout est paramétrable. Il ne faut pas croire que tout est... Par exemple, vous voyez, par exemple, le projet culturel de territoire de Saint-Quentin, c'est Christelle qui le gère. Donc, il y a des choses qui sont un peu compliquées sur Saint-Quentin-en-Yvelines en ce moment. Donc, on ne partage pas tout. Ce sont, vous voyez, la petite clé, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de paramétrage où tout n'est pas visible. Vous voyez ? Voilà, il y a donc... l'association des bibliothèques des Yvelines, Intermédia 78, qui, voilà, qui, comme ça, peut communiquer. Et finalement, a beaucoup plus de trafic sur le vivier que sur son site web. Parce que le site web, c'est une démarche. Est-ce que là-dessus, on a effectivement les notifications, on peut avoir des alertes, on peut gérer plein de choses.
Bien. Bien, moi, je voudrais prendre la parole. Tout d'abord, je vais vous dire ce que je ne suis pas. Je ne suis pas bibliothécaire. je suis élu local et je suis juriste aussi. Et je voudrais revenir sur l'intervention de Raphaël Batz sur la... sur la démocratie participative. Alors, vous allez me dire que les juristes ont l'esprit un peu étroit, c'est possible. Mais j'ai tendance à penser que la démocratie participative, ça n'est pas de la démocratie. Je vais essayer de m'expliquer. Dans l'histoire des idées politiques, on retient deux grands systèmes de démocratie. La démocratie directe, en France, popularisé par Rousseau, qui m'a fait connaître d'ailleurs Lionel Bourg à une certaine époque, et la démocratie représentative, Sieyès et Montesquieu. J'ai tendance à penser que ces systèmes sont des systèmes concurrents. Comme ne le dit pas d'ailleurs la Constitution, comme ne le dit pas l'article 3 de la Constitution, puisque l'article 3 de la Constitution mélange un peu les deux systèmes, puisqu'il y a la souveraineté nationale appartient au peuple, ce qui étymologiquement ne tient pas évidemment, et qu'elle s'exprime par les représentants et par la voie du référendum. Les représentants, c'est la démocratie représentative, la voie du référendum, c'est la démocratie directe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, on est essentiellement dans un système de démocratie représentative. Regardons autour de nous, ce sont les représentants qui exercent le pouvoir, pouvoir national comme pouvoir local. Et quand on parle de démocratie participative, je ne suis pas complètement sûr qu'on parle de l'exercice du pouvoir. Je pense qu'il y a à ce propos un discours et un jeu d'acteurs. Et que le jeu d'acteurs, les acteurs, ce sont les représentants qui ont un discours, les représentants se rendent bien compte que la démocratie représentative, elle est en difficulté. Est-elle à bout de souffle? Je n'en sais rien. Peut-être un peu hâtif de dire cela, mais elle est en difficulté. Donc, ils ont besoin d'en renforcer les sources, ils ont besoin d'en renforcer les soubassements. Et ils réfléchissent à comment renforcer ces soubassements. La participation collective peut être un mode de renforcement. Mais, à mon sens, un mode de renforcement de cette forme de démocratie qui est la démocratie représentative. Les représentants prennent leurs décisions au nom de l'intérêt général. Ils sont élus pour cela. Si d'autres prennent les décisions au nom de l'intérêt général, ils perdent leur place, ils perdent leur raison d'être, ils perdent leur légitimité. Et donc, ils veulent bien des alliés participants, mais sûrement pas, me semble-t-il, je suis élu, sûrement pas transférer l'exercice du pouvoir à d'autres qu'eux. Ça serait scier la branche sur laquelle ils sont assis. Et puis alors, en matière culturelle, un exemple de cela, un exemple de ce que peut être le poids des pouvoirs institués, un exemple que je connais, qui concerne une commune qui n'est pas la mienne et qui a pour projet de construire une médiathèque. Cette commune n'est pas très riche. Elle a donc fortement besoin des subventions publiques, région, département, DRAC, c'est le triptyque habituel. Et sa première expérience de relation avec la DRAC a été un petit peu douloureuse. Dans la première réunion, la DRAC est venue avec l'architecte conseil. Les élus locaux ont montré les plans de leur projet. L'architecte conseil, pouvoir d'expert, comme vous le disiez tout à l'heure, l'architecte conseil a dit « Oh là là, mais quelle horreur, les plafonds sont trop bas, il n'est pas question que la DRAC finance un tel projet. » Donc, le projet est sérieusement remis en question. Comment, sur un mode comme celui-ci, peut-on parler de démocratie participative? Le public, les usagers ou le non-public me paraissent bien loin.
Ouais. Alors, je suis à 200% d'accord avec vous. C'est exactement ce que j'ai dit à propos du jeu des municipalités sur démocratie participative, participation démocratique. Moi, la première fois que j'ai entendu dire qu'il y avait un service de démocratie participative dans une mairie, mais j'ai rigolé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ne vont pas inventer ? Après, c'est aussi une démarche, c'est une dynamique. On voit aussi aujourd'hui... Il faut avoir un esprit critique au sens de voir les dispositifs qui sont à l'œuvre derrière les mots qui sont utilisés par les pouvoirs publics. Néanmoins, moi, en tant que nous, fonctionnaires, il faut aussi en faire notre jeu, quoi. C'est-à-dire qu'il faut savoir aussi travailler avec, voir ce qu'il y a de bon à prendre, je dirais, derrière les discours. Donc, il est clair qu'un service de démocratie participative, ça sonne un peu l'arnaque, quoi. C'est sûr que derrière, on se doute qu'ils ne veulent pas d'une démocratie directe. Après, est-ce qu'ils veulent à tout prix une démocratie représentative, tous les élus? Je ne sais pas. C'est aussi le mode aujourd'hui qui fait qu'on a des élus. Donc, si on veut s'engager, si on veut porter, c'est un vrai choix d'être élu, un choix, je dirais, de vie. Parce que c'est sûr aussi, vous avez un métier, donc vous le faites quand vous avez fini votre métier, etc. Donc, c'est une participation aussi. Je veux dire, la participation, elle est aussi dans le fait d'être élu représentant, etc. Donc je suis pas sûre que pour les élus, il s'agisse à tout prix de se défaire de la représentation pour aller dans le direct ou se défaire du direct pour rester dans la représentation. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des dispositifs dessous qui sont plus ou moins honnêtes et visibles, qu'il s'agit pour nous de déconstruire, c'est-à-dire d'avoir une certaine attention. Et c'est pour ça que je finissais en disant qu'il faut avoir travailler sa culture politique, finalement. C'est-à-dire essayer de voir ce qui est en jeu derrière des mots comme démocratie participative, participation démocratique, service de proximité, etc. etc. Mais néanmoins... Je pense que la participation, sans dire que c'est une manière, un exercice du pouvoir, je pense que ça peut parfois influer certaines décisions. Et rien que pour ça, ça justifie qu'on s'en saisisse, ou en tout cas qu'on ne laisse pas les services de démocratie participative organiser la participation de ce qui est pour eux les publics. C'est-à-dire qu'il faut que les bibliothécaires soient aussi dans le coup. C'est-à-dire que ce serait complètement absurde que les bibliothécaires ne participent pas à la démocratie participative si c'est le nom qu'a choisi votre ville. Mais vous verrez que de plus en plus, ce terme disparaît de toute façon, démocratie participative. Ça n'a plus du tout le voix en poupe, c'est tellement critiqué, déconstruit, etc., qu'aujourd'hui, on n'utilise plus ça. Après, sur le problème des hiérarchies, ça, c'est toujours la même chose. C'est ce que j'essayais de dire aussi. C'est que à un moment donné, si vous faites un projet participatif dans votre établissement sans donner le cadre exact de où va se poser la décision, ce qui est le point ultime, en fait, hein, dans les politiques culturelles, vous vous mettez en risque de déception énorme, notamment pour votre public. Donc ça, j'ai vu dans des bibliothèques, effectivement, pour des constructions, on présente des architectes et les gens votent, par exemple, sur quel architecte on rejoint. C'est sûr que si avant ça n'a pas été fait un certain travail de validation vis-à-vis d'autres élus qui sont financeurs, justement, enfin, quelle déception pour les gens. Enfin, voilà. Et c'est, le problème, c'est pas le problème de la déception, c'est « Oh, les pauvres, ils vont être déçus ». C'est pas ça, le problème. Soyons plus cyniques que ça. Le problème, c'est une question de confiance. C'est quelle confiance ils vont nous accorder après. Surtout si ce qu'on veut, c'est expérimenter une démocratie à l'œuvre, qu'elle soit directe, indirecte, peu importe, mais en tout cas à l'œuvre, c'est-à-dire à laquelle on prenne part d'une manière générale, alors on ne peut pas se permettre ce manque de confiance. C'est justement parce qu'il y a un manque de confiance que certains ont voulu développer de la démocratie participative. Et donc, il faut absolument que ce point confiance reste en fait dans nos esprits quand on développe un projet. Mais confiance, ce n'est pas seulement la confiance des usagers, c'est confiance aussi des élus qui peuvent regarder le projet en se disant « Oh là là, vers où ils vont ?» et confiance aussi des collègues. Ça, c'est très important. Enfin, là, je suis 200% d'accord avec le Vivier. La participation, ça commence en interne. C'est quelque chose qu'il faut vraiment accompagner à tous les niveaux.